L'Église de Dieu à travers les âges, par John H. Ogwin. L'Église de Dieu a traversé notre ère. Elle constitue un petit troupeau, Luc 12 au verset 32. Mais Dieu a promis que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16 au verset 18. Dans cette brochure révélatrice, vous lirez un bref récit de la fascinante histoire de la véritable Église de Dieu. Table des matières. Page 3, chapitre 1, qu'est-il arrivé à l'Église? Page 14, chapitre 2, une transition dramatique. Page 26, chapitre 3, l'Église dans le désert. Page 35, chapitre 4, l'enracinement dans un nouveau monde. Page 44, chapitre 5, schisme, division et nouveau commencement. Édition 1.1, avril 2012, copyright 2003, Living Church of God. Tout droit réservé. God's Church Through the Ages, traduit de l'anglais sous la surveillance de Dibar appartient. Cette brochure n'est pas à vendre, elle est envoyée gratuitement sur simple demande à titre de service éducatif rendu au public. Chapitre 1. Qu'est-il arrivé à l'Église? Jésus-Christ a dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Matthieu 16 au verset 18. Quelle est l'Église que Dieu a bâtie et que lui est-il arrivé? Lorsque la Bible parle de l'Église, elle ne se réfère pas à un bâtiment ou à une organisation humaine soumise à une autorité séculière. Le mot grec qui a été traduit par l'Église en français est « ecclésia ». Il dérive de deux racines grecques et il signifie littéralement « appelé hors » ou « appelé de ». En termes profanes, il se réfère à une assemblée de citoyens qui sont appelés hors des habitants d'une cité, pour faire le point sur des sujets importants. Il fut souvent utilisé dans les traductions grecques de l'Ancien Testament en référence à la congrégation d'Israël ou à l'assemblée du peuple de Dieu. Congrégation ou assemblée exprime le sens de ce mot dans le Nouveau Testament. L'idée d'être appelé hors selon le terme ecclésia est fondamentale pour apprendre l'Église. Dans Genèse 11, nous lisons qu'Abraham fut appelé hors d'Ur en Chaldée par Dieu. Dans Exode 12, nous lisons que les descendants d'Abraham, les enfants d'Israël, furent appelés hors d'Égypte par Dieu. Ensuite, ils devinrent la congrégation d'Israël ou l'assemblée au désert, Actes 7 verset 38, ou l'Église au désert. L'un des derniers avertissements de Dieu à son peuple est un appel à sortir de Babylone, Apocalypse 18 au verset 4. Les saints de Dieu ne participent pas à la corruption actuelle, à cette culture basée sur le péché, afin de ne pas subir le châtiment divin réservé à cette Babylone. Jésus a dit que personne ne pouvait venir à lui sans avoir été appelé par le Père. Jean 6 au verset 44. Ceux qui répondent à l'appel du Père par la repentance et le baptême sont ceux qui reçoivent le Saint-Esprit. Acte 2 verset 38. Et ce n'est que par le Saint-Esprit de Dieu que nous sommes intégrés à l'Église bâtie par Jésus. Romains 8 au verset 9 et 1 Corinthiens 12 au verset 13. Qu'est-il arrivé à l'Église que Jésus-Christ devait bâtir? A-t-elle changé avec le temps par suite d'une révélation progressive? A-t-elle eu besoin de rectifier sa trajectoire en passant par la réforme conduite par des hommes comme Martin Luther ou Jean Calvin? Y a-t-il eu un groupe de fidèles qui a traversé les âges, continuant à croire et à pratiquer les mêmes doctrines que Jésus-Christ et les apôtres du premier siècle ont enseignées? Lorsque nous examinons l'histoire de l'Église traditionnelle, censément chrétienne, il apparaît que cette dernière est immensément différente de celle qui est décrite dans les pages du Nouveau Testament. Dans le livre des Actes, nous trouvons que l'Église de Dieu célébrait les jours saints juifs. Acte 2 au verset 1. Acte 13 au verset 14, 42 et 44, et ainsi que Acte 18 au verset 21, qu'elle annonçait le retour de Jésus-Christ pour juger le monde, Acte 3 au verset 20 et 21, ainsi que Acte 17 au verset 31, et qu'elle croyait à l'établissement littéral du royaume de Dieu sur la terre, Acte 1 au verset 3 et 6, ainsi que Acte 28 au verset 23. Cependant, à peine 300 ans plus tard, nous sommes en présence d'une Église revendiquant son origine apostolique. Mais observons le jour du soleil à la place du sabbat du septième jour. Lorsque cette Église réunit ses évêques pour discuter de manière doctrinale au concile de Nicée, la conférence était présidée par un empereur romain, Constantin. Comment en était-elle arrivée à cette incroyable transformation? Que s'était-il passé? Dans son livre The Story of the Christian Church, l'écrivain protestant Jess Lyman Hurlburt reconnaît qu'un changement dramatique avait eu lieu. 50 ans après la vie de Saint Paul, un rideau tomba sur l'Église et toute tentative pour voir au travers resta vaine. Enfin, lorsqu'on se lève vers 120 après Jésus-Christ avec les écrits des premiers pères de l'Église, nous trouvons une Église dont les caractéristiques sont très différentes de celles de l'époque de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Page 41, c'est nous qui traduisons tout au long de cette brochure. L'histoire de l'Église chrétienne entre la Pentecôte de l'an 31 après Jésus-Christ et le Concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ, à peine 300 ans plus tard, est incroyable. C'est l'histoire de l'orthodoxie d'hier devenue hérésie aujourd'hui. Et comment les anciennes hérésies sont considérées maintenant comme des doctrines chrétiennes orthodoxes. C'est l'histoire du remplacement des doctrines basées sur la parole divine par la tradition et l'enseignement des évêques. C'est un scénario qui dépasse la fiction, mais qui est historiquement vérifiable. Simon et un autre évangile. Dans Acte 8, nous sommes mis en présence d'un homme qui fut utilisé par Satan pour infiltrer et pour miner l'Église de Dieu. Cet homme s'appelait Simon, un enchanteur de Samarie, mieux connu par les historiens sous le nom de Simon le magicien. Simon était considéré par les Samaritains comme un représentant de Dieu. Acte 8 au verset 9 et 10. Dans son livre The New Testament Environment, Edward Loesch déclare que l'expression « ce qu'on appelle la grande » appliquée à Simon le désigne comme détenteur de la révélation divine. Page 269. Simon fut baptisé et devint chrétien de non seulement, tout comme le reste des Samaritains. Cependant, l'apôtre Pierre discerna les véritables motifs de la conversion de cet individu, dans Acte 8 au verset 22 et 23. Pierre le réprimanda en termes très durs. « Tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Qui étaient les Samaritains? Le deuxième livre des rois révèle que les 10 tribus d'Israël du Nord furent déportées par le roi d'Assyrie et des Babyloniens furent installés à leur place. Ces Babyloniens en Samarie continuèrent à pratiquer leur ancien paganisme babylonien en y incorporant une terminologie de façade. Deux rois 17 au verset 33 et 41. Quoiqu'ils prétendaient adhérer au Dieu d'Israël, ils n'obéissaient pas à sa loi. Verset 34. En vérité, comme les livres d'Esdras et de Néhémie le montrent, ils s'opposèrent à la véritable œuvre de Dieu en cette époque. Tout comme les Juifs, les Samaritains avaient commencé à se discerner dans le monde connu à la suite des conquêtes d'Alexandre le Grand. Il y avait des colonies de Samaritains dans plusieurs centres importants de l'Empire romain, dont Alexandrie et Rome. Simon avait des admirateurs et des fidèles parmi ces gens. La religion des Samaritains, avec son mélange de paganisme babylonien et son apparente adhésion au Dieu d'Israël, fut fortement influencée par la philosophie grecque. Simon le magicien ajouta à cela la reconnaissance de Jésus-Christ en tant que rédempteur de l'humanité. Cependant, comme Jésus l'a déclaré, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 7 au verset 21. Simon se servit du nom de Jésus, mais il lui substitua un autre message, un message qui s'affranchit de la nécessité d'obéir réellement à Dieu et d'observer ses commandements. L'ouvrage « Handbook to the History of Christianity » de Hermann Knott. À l'origine, les écrivains chrétiens estimaient que Simon était à la source de toutes les hérésies. Page 100. Dans un article sur Simon le magicien, dit « Encyclopædia Britannica », 11e édition, le désigne comme fondateur d'une école de gnostiques et père de l'hérésie. Regardez ce que l'historien Édouard Gibbon dit des gnostiques. Mélangés à la foi du Christ, beaucoup de principes sublimes, même obscurs, dérivaient de la philosophie orientale. The Triumph of Christendom in the Roman Empire, page 15. Le gnosticisme, ce terme vient d'un mot grec qui signifie connaissance, était une approche hautement intellectuelle sur la façon de vivre. C'était un mélange de religion babylonienne à mystère, de théorie philosophique grecque, le tout enrobé d'une terminologie biblique. Chez les gnostiques, les récits bibliques n'étaient pas acceptés d'une manière littérale, mais considérés comme des allégories destinées à faire comprendre des vérités plus profondes. Le récit mosaïque de la création était tourné en dérision chez les gnostiques. Gibbon, page 13. Le gnosticisme soutenait la dualité païenne de l'immortalité de l'âme et du mal inhérent à la matière.
Il introduisit également beaucoup de vaines spéculations concernant la nature divine et le monde spirituel. Plusieurs livres du Nouveau Testament, dont l'Évangile de Jean, l'Épître aux Colossiens et la première Épître de Jean, furent écrits pour réfuter les hérésies gnostiques que Simon le magicien et beaucoup d'autres commençaient à propager. La culture helléniste qui prévalait au Moyen-Orient et dans la région méditerranéenne était une alternative ou une concurrente à la perspective et aux valeurs bibliques. Elle poussait à la supériorité de la raison et de la logique sur la révélation biblique. Les Grecs cultivés, embarrassés par la grivoiserie de leurs anciens dieux et de leurs héros antiques, des écrits d'Homère et d'Hérodote, cherchaient à les expliquer comme s'il s'agissait de profondes allégories. Cette façon d'approcher leurs écrits inspirés influença les juifs hellénistes, tels que Philo d'Alexandrie, dans leur façon d'appréhender la Bible. Cette manière allégorique de considérer l'Ancien Testament fut un outil aux mains des gnostiques et des autres pour prétendre se libérer de l'obéissance au commandement. Près de 15 ans après le baptême de Simon le magicien, l'apôtre Paul jugea nécessaire d'adresser une mise en garde à l'église de Thessalonique, car le mystère de l'iniquité agit déjà. De Thessaloniciens 2 au verset 7. Près de 5 ans plus tard, Paul avertissait les Corinthiens du danger de se laisser corrompre par de faux apôtres enseignant un autre Jésus et un autre évangile. Simon et ses disciples étaient en réalité des ministres de Satan déguisés en ministres du Christ. 2 Corinthiens 11 au verset 3 et 4, ainsi que le verset 13 à 15. Aux environs des années 60 après Jésus-Christ, l'apôtre Jude, frère de Jacques et de Jésus-Christ, exhortait les chrétiens sur la nécessité de combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Jude 3. Il disait que certains hommes s'étaient introduits dans l'organisation de l'Église essayant de tourner la grâce en dérèglement en enseignant que la loi divine n'était plus en vigueur. Verset 4. À l'époque de Jude, la véritable foi avait déjà été donnée une fois pour toutes. Ceux qui prétendent qu'elle fut fixée par les théologiens du 2e et du 3e siècle, qui commencèrent à discuter de la nature de Dieu, feraient bien de relire Jude 3. Il est clair que Jude s'oppose à l'idée d'une révélation progressive. À la fin du 1er siècle, près de 30 ans après que le reste du Nouveau Testament eut été complété, l'apôtre Jean fut contraint de contester les hérésies qui s'étaient plus largement répandues qu'à l'époque de Paul et de Jude. Jean devait constamment insister sur la nécessité d'observer les commandements divins. 1 Jean 2 au verset 3, 1 Jean 3 au verset 4 et 22 et 1 Jean 5 au verset 3. Dans 2 Jean 7, il abonde dans ce sens, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Dans 3 Jean 9 et 10, un chef dont le nom était Diotrephe avait pris le contrôle de plusieurs congrégations en Asie mineure et il était allé jusqu'à chasser de l'Église ceux qui étaient restés loyaux au vieil apôtre Jean et à ses enseignements. L'Église en transition. 25 ans environ avant les écrits de Jean, survint un événement dont les implications touchèrent de près l'Église du Nouveau Testament. Cet événement fut la destruction de Jérusalem par les légions romaines de Titus en 70 après Jésus-Christ. L'Église de Dieu qui se trouvait à Jérusalem sous la présidence du successeur de Jacques, Siméon, cousin germain de Jacques et du Christ, fuya précipitamment la ville peu avant cette date et s'établit à Pella, un lieu désertique et isolé. Après la mort de Siméon, il y eut 13 dirigeants en 28 ans, et l'Église de Dieu de Jérusalem connut une période de grande turbulence. Beaucoup d'entre eux qui avaient déjà répandu des hérésies se mirent à les propager sans retenue. Certains chrétiens furent découragés et devinrent confus, car les événements ne se déroulaient pas comme ils les avaient imaginés. L'Église devenait de plus en plus un mélange de nouveaux convertis païens et de membres de seconde et de troisième génération. Au cours de la dernière partie du 1er siècle, ainsi qu'au début du 2e siècle, le monde romain devint de plus en plus hostile aux Juifs. Pour les punir des lois excessivement oppressives et de lourdes taxes leur furent imposées. Entre le 1er siècle, 66 à 73 après Jésus-Christ, et le 2e, 132 à 135 après Jésus-Christ, des Juifs se révoltèrent et il y eut beaucoup de massacres violents organisés contre eux, comme par exemple à Alexandrie et à Antioche. En réaction, les Juifs provoquèrent de violentes émeutes en Mésopotamie, en Palestine et en Égypte. Il arriva fréquemment que des chrétiens fussent victimes de ces déchaînements, parce que les autorités de l'Empire les considéraient comme une secte juive. Parallèlement, les révolutionnaires juifs les regardaient en traîtres au judaïsme et à leur cause politique parce qu'ils ne voulaient pas se battre contre les Romains. Durant cette période, des centaines de milliers de membres des synagogues et de membres de l'Église, c'est-à-dire ceux qui observaient le sabbat et qui étudiaient les Écritures, périrent par les Romains ou par la foule. Au cours de cette ère dangereuse, l'Église de Rome sous l'évêque Sixte, 116 à 126 après Jésus-Christ, commença à tenir un culte le dimanche et cessa d'observer la Pâque annuelle pour y substituer le dimanche des Pâques et l'Eucharistie. C'est ce qui ressort clairement d'un rapport préservé par Eusèbe de Césarée, un érudit à la fin du IIIe siècle et du début du IVe siècle, connu pour être le père de l'histoire ecclésiastique. Eusèbe tire sa source d'une lettre d'Irénée, évêque de Lyon, 130 à 202 après Jésus-Christ, à l'évêque Victor de Rome. Dans son livre « From Sabbath to Sunday », Samuel Bacciottier reconnaît, parmi les érudits, il est largement admis que Rome est en réalité l'instigatrice du dimanche des Pâques. En fait, certains les appellent à juste titre les Pâques romaines. Page 201. Cette rupture officielle d'avec la loi divine était la conséquence naturelle du mystère de l'iniquité qui confondait la grâce avec le dérèglement, en enseignant que l'obéissance à la loi n'était plus requise. Lorsqu'une pratique est jugée inutile, il ne faut pas attendre longtemps avant qu'on cherche à la modifier ou à l'abolir. Étant donné que le conflit entre le judaïsme et l'Empire s'intensifiait, beaucoup de chrétiens de Rome, sous la direction de l'évêque Sixte, firent des démarches pour ne plus être perçus autant que possible comme des juifs et par conséquent pour ne plus subir la persécution dirigée contre eux. En 135 après Jésus-Christ, à la fin de la seconde révolte juive, l'empereur romain Adrien, Publius Aelium Adrianus, prit des mesures drastiques contre les juifs. Il fit renommer Jérusalem d'après son nom et celui du dieu Jupiter Capitolin, Aelia Capitolina, et imposa la peine de mort contre quiconque se nommait juif oserait entrer dans la ville. À ce point, Marcus, un Italien, devint évêque de Jérusalem, comme Édouard Gibbon l'écrit au 15e chapitre de son célèbre livre « Decline and Fall of the Roman Empire ». Sur ces instances, la plus grande partie de la congrégation renonça à la loi mosaïque et à ce qu'elle pratiquait avec persévérance depuis un siècle. En renonçant à leurs habitudes et à leurs préjugés, ils purent circuler librement dans la colonie d'Adrien tout en consolidant fermement leur union à l'Église catholique. Volume 1, page 390. Qu'advint-il des chrétiens restés attachés à la loi divine? Gibbon écrit « Le délit d'hérésie et de schisme était imputé au reste obscur des Nazaréens qui refusaient de suivre leur évêque latin. Peu de temps après que l'Église fut rentrée à Jérusalem, un doute et une controverse s'installèrent quant à la possibilité pour un homme d'espérer obtenir le salut en reconnaissant sincèrement que Jésus était le Messie, tout en observant la loi de Moïse. » Page 390. Il ne fallut pas longtemps pour que les prétendus chrétiens qui avaient cessé d'observer le sabbat privent leurs frères judaïsants de l'espoir du salut et qu'ils leur refusent tout contact fraternel, hospitalier et social. Incroyable! Cela eut lieu à peine quelques années après qu'ils eurent célébré les fêtes divines tous ensemble. Cependant, après que l'évêque Marcus leur eut apporté une nouvelle compréhension, la majorité des prétendus chrétiens le suivirent en condamnant les chrétiens fidèles qui restaient fermes dans la foi dans laquelle ils avaient été enseignés. Ceux qui étaient restés loyaux à la vérité furent écartés par une majorité qui cherchait à remplacer le christianisme historique contre quelque chose de différent sous prétexte qu'il était devenu une source de division. Une théologie inspirée par une nouvelle compréhension. Beaucoup d'écrits chrétiens du IIe siècle présentent une théologie totalement différente de ce que l'apôtre Jean avait écrit 10 ou 20 ans plus tôt. Comme Bacciocci l'affirme, Ignace, Barnabé et Justin, dont les écrits constituent la source majeure de nos informations sur la première moitié du IIe siècle, témoignèrent et participèrent au processus de séparation d'avec le judaïsme, qui conduisit la majorité des chrétiens à abandonner le sabbat et à adopter le dimanche en tant qu'un nouveau jour d'adoration. Page 213. Ignace d'Antioche, vers 110 après Jésus-Christ, écrivit. Il est monstrueux de parler de Jésus-Christ et de pratiquer le judaïsme. Magnésens 10. Il dit également de ne plus observer les sabbats. Cependant, l'apôtre Jean, dont l'évangile avait été écrit quelques 20 ans plus tôt, souligna que Jésus avait observé les mêmes fêtes que celles de la communauté juive. Jean 7 au verset 2, ainsi que Jean 11 au verset 55. dans son épître écrite vers 100 ans après Jésus-Christ, Barnabé d'Alexandrie, ne pas confondre avec l'apôtre Barnabé, déclara que l'Ancien Testament était une allégorie qui ne devait pas être prise à la légère. Il considérait que l'interdiction de la loi de consommer des aliments impurs était une métaphore pour montrer que les chrétiens devaient éviter certaines catégories de personnes. Épître de Barnabé 10. Il cherchait aussi à relativiser le sabbat et il déclara « Nous célébrons le huitième jour pour nous réjouir également de ce que Jésus est ressuscité des morts. » Épître de Barnabé 15. Deux théologiens éminents du deuxième siècle ont joué un rôle important dans la transformation de la théologie biblique en théologie catholique romaine, ayant été l'un et l'autre baptisés dans une église placée sous l'autorité de Polycarpe. Polycarpe, 69 à 155 après Jésus-Christ, avait été un disciple personnel de l'apôtre Jean, et il était resté l'un des rares dirigeants fidèles de cette époque à demeurer dans la vérité. Ces deux hommes, Justin Martyr, 95 à 167 après Jésus-Christ, et Irénée, 130 à 202 après Jésus-Christ, quoiqu'ils eussent conservé certaines vérités apprises sous Polycarpe, s'accommodèrent fort bien de la nouvelle orientation de la théologie romaine au nom de l'unité de l'Église. Bien qu'il se fût affranchi d'une bonne partie des enseignements de Polycarpe, Irénée témoigna pendant toute sa vie de l'admiration pour lui en tant que grand homme de Dieu. Justin était un grec de Samarie qui devint philosophe adepte de Platon, et qui, sous l'influence de Polycarpe et de ses disciples, fut baptisé comme chrétien à Éphèse vers 130 après Jésus-Christ. Il se rendit à Rome en 151 après Jésus-Christ, y fonda une école et fut martyrisé par la suite. En 167 après Jésus-Christ, après son arrivée à Rome, Justin chercha à s'orienter sur un compromis au sujet de la loi. Henri Chadwick écrit « Justin croyait qu'un chrétien juif était libéré de la loi mosaïque, sans compromettre d'aucune façon sa foi chrétienne, et même qu'un chrétien non-juif pouvait observer les coutumes juives si un chrétien juif l'en avait convaincu. Il suffisait de considérer que de telles observances étaient des matières sans intérêt relevant de la conscience individuelle. Mais Justin admettait que d'autres chrétiens non-juifs n'avaient pas une approche si libérale, et croyait que ceux qui observaient la loi mosaïque ne seraient pas sauvés. » The Early Church, pages 22 et 23. Irénée avait grandi en Asie mineure et, dans son adolescence, il avait entendu prêcher Polycarpe. Il arriva à Rome au début de sa vie adulte et plus tard, il devint évêque de Lyon en France en 179 après Jésus-Christ. Irénée est considéré comme le plus grand théologien catholique et semble avoir longtemps favorisé la paix et l'esprit de conciliation. Néanmoins, son désir de paix était si grand qu'il préférait faire des compromis avec la vérité pour maintenir l'unité de l'Église. Les églises d'Asie mineure, sous Polycarpe, observaient le sabbat et les jours saints. Cependant, lorsque Irénée vint à Rome, il était prêt à s'adapter aux pratiques romaines de l'observance des Pâques et du dimanche. À Lyon, certains observaient la Pâque le 14 Abib, et certains autres observaient les Pâques. Irénée observait la Pâque, mais il semblerait qu'il eût été tolérant envers ceux qui continuaient à respecter la Pâque. Une révolution théologique était, en réalité, en train de se produire dans l'Église du IIe siècle. Notez cela. Justin Martyr occupe une position centrale dans l'histoire chrétienne du IIe siècle. Justin avait également influencé la pensée d'Irénée, évêque de Lyon. Chadwick, page 79. Bien que Justin devint chrétien à Éphèse, il ne comprenait pas que cela puisse l'obliger à abandonner ses investigations, ni même à renoncer à tout ce qu'il avait appris du platonisme. Page 75. Il croyait que le Dieu de Platon était aussi le Dieu de la Bible. Justin ne prétend pas catégoriquement et exclusivement que la révélation divine avait été confiée aux Hébreux, ce qui aurait eu pour effet de déclarer nulles les valeurs et les autres sources de sagesse. Abraham et Socrate sont semblables à des chrétiens avant le Christ, page 76. En acceptant une quantité non négligeable de pensées philosophiques grecques, cette nouvelle approche prépara le remodelage de la théologie chrétienne en ce qui concerne la nature de Dieu. En dépit de toutes ces choses, Justin reconnaissait l'autorité du livre de l'Apocalypse et croyait que le Christ viendrait reconstruire Jérusalem pour régner avec ses saints durant 1000 ans, page 78. Irénée, fortement influencé par Justin, conserva également des parts de vérité en dépit de son adaptation aux pratiques romaines. Il enseigna avec raison que le but de notre existence consiste à former le caractère en surmontant les difficultés et les tentations. Page 80. Il croyait également à l'établissement littéral d'un millénium terrestre durant lequel le Christ régnerait sur terre, et il était contre l'interprétation symbolique d'un espoir millénaire dans les cieux. Quoique sur ce point, il insista moins fortement dans ses derniers ouvrages. L'abandon de la vérité au profit de l'unité et de la tradition. Il faut noter deux erreurs fondamentales entre ceux qui se disaient chrétiens et ceux qui continuaient à représenter l'Église que le Christ avait fondée. Ces erreurs étaient en rapport avec le fait de savoir si la loi divine continuait d'être obligatoire pour les chrétiens. Ensuite, quelles étaient la nature et l'identité de Dieu. Des erreurs sur ces deux points ne firent qu'élargir la divergence entre la prétendue Église chrétienne et la véritable Église de Dieu. L'importance de la loi fut le sujet majeur controversé, depuis environ 50 après Jésus-Christ jusqu'en 200 après Jésus-Christ. Ce ne fut qu'au Concile de Nicée, 325 après Jésus-Christ, et au Concile de Laodicée, 363 après Jésus-Christ, que le problème fut finalement résolu lorsque l'État romain s'y mêla. La substance du conflit fut conservée dans la confrontation qui eut lieu vers 190 après Jésus-Christ entre Polycrate d'Asie mineure et Victor, évêque d'Europe. Polycrate était le successeur de Polycarpe, lui-même disciple direct de l'apôtre Jean. Irénée rapporte que Polycarpe avait fait le voyage jusqu'à Rome au milieu du IIe siècle afin d'essayer de persuader Anicète, évêque de Rome, du bon moment pour la célébration de la Pâque. Anicète répondit qu'il s'en tenait à la tradition de ses prédécesseurs depuis l'évêque Sixte, tandis que Polycarpe déclara qu'il avait toujours observé la Pâque avec Jean, le disciple de notre Seigneur, et le reste des apôtres avec lesquels il était associé. Eusèbe 24. Près de 50 ans après le voyage de Polycarpe, Victor de Rome essaya d'intimider les églises d'Asie mineure afin qu'elles se conforment à la pratique des Pâques romaines. Polycrate écrivit à Victor. Par conséquent, nous observons le véritable jour, la Pâque, sans rien y ajouter et sans rien en retrancher. Car en Asie, de grandes lumières se sont éteintes, mais elles se relèveront à nouveau au jour de l'apparition du Seigneur, lorsqu'il reviendra des cieux et ressuscitera tous les saints. Philippe, l'un des 12 apôtres qui dort à Hiérapolis, Jean qui se reposa sur la poitrine de notre Seigneur, Polycarpe de Smyrne, tout cela observèrent la Pâque au 14e jour selon l'Évangile, sans faire d'écart, mais en suivant la règle de la foi. Et mes parents ont toujours observé le jour quand le peuple mettait le levain de côté. 14 Habib. En conséquence, frères, moi qui ai maintenant 65 ans, dont le Seigneur qui a consulté les frères à travers le monde et qui a étudié toutes les Écritures sacrées, je n'ai pas peur de toutes ces choses dont vous me menacez pour m'intimider. Car eux, qui sont plus grands que moi, ont dit, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Eusèbe 24. Au cours du IIe siècle, les nombreuses controverses qui fusaient de partout remirent en question le gouvernement de l'Église. Cette approche mettait l'accent sur ce que devait être la succession apostolique. Au Ier siècle, l'apôtre Paul avait loué les Béréens pour leur empressement à vérifier chaque jour dans les Écritures que ce qu'il leur annonçait était conforme à la vérité. Acte 17 au verset 11. Il exhorta les Thessaloniciens à examiner toutes choses et à retenir ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5 au verset 21. Constamment, au cours du 1er siècle, nous pouvons lire un appel à se tourner vers les Écritures. Cependant, à commencer par les écrits de Clément, évêque de Rome, nous lisons autre chose. Clément écrivit une lettre à l'église de Corinthe vers 100 après Jésus-Christ, probablement peu de temps après la mort de l'apôtre Jean. Les éditeurs de Masterpiece of Christian Literature soulignent que l'idée principale de Clément était que le chemin de la paix et de la concorde passe par l'obéissance aux autorités établies, les anciens. Le Christ gouverne les églises au moyen des apôtres, des évêques nommés par eux et des successeurs approuvés des évêques. Environ 10 ans plus tard, Ignace insista également sur ce point. L'unité et la paix dans l'Église, ainsi que la validité de l'Église, sont obtenues en restant fidèle à l'évêque, Master Piscis. Au milieu du siècle suivant, cette idée avait tellement pris d'ampleur que Cyprien d'Afrique du Nord déclara « Le point de mire de l'unité est l'évêque. Lui désobéir, c'est désobéir à l'Église, et l'on ne peut pas avoir Dieu pour père si l'on n'a pas l'Église pour mère. » Chadwick, page 119. Ces revendications étaient destinées à pousser les frères dans une organisation qui se développait rapidement et qui devint l'Église catholique que nous connaissons aujourd'hui. Comme ces appels sont de loin différents de ceux que l'apôtre Paul et des autres chefs du Nouveau Testament qui mettaient l'accent sur les Écritures et sur les fruits de leurs ministres pour authentifier l'Église. Voir 1 Corinthiens 11 au verset 2, Actes 17 au verset 2. N'étant plus capable de se référer clairement aux Écritures, les chefs de l'Église du 2e et du 3e siècle comptaient de manière croissante sur la loyauté des frères auxquels ils affirmaient avoir été dûment ordonnés successeurs des apôtres et des évêques qui les avaient suivis. Alors qu'ils abandonnaient de plus en plus ce que les apôtres avaient enseigné, ces individus trompeurs cherchaient à rassembler les frères en faisant appel à l'unité et à la mémoire des apôtres. Chapitre 2, une transition dramatique. Comment cela entraîna-t-il tant de gens si loin et aussi vite? C'est la question qui nous vient à l'esprit lorsque nous examinons l'histoire de l'Église primitive. À l'époque de la mort de l'apôtre Jean à l'aube du 2e siècle après Jésus-Christ, le mouvement chrétien, quoique assailli à l'évidence par de nombreux problèmes et de nombreux faux enseignants, donna au moins naissance à une église qui ressemblait à l'église de Dieu du livre des Actes. Mais au début du 3e siècle après Jésus-Christ, la majorité de ces congrégations, bien que se nommant encore Église de Dieu, ressemblaient davantage par leur doctrine à l'Église catholique médiévale qu'à l'Église de Dieu de l'époque des apôtres Pierre, Jacques, Paul et Jean. Au cours du 2e siècle, un certain nombre de changements graduels affectèrent à la fois la doctrine et la pratique de la vaste majorité des congrégations. Tout concourait à ce que ces changements ait lieu depuis que certaines idées avaient commencé à se propager quelques années à peine après la résurrection et l'ascension du Christ. Les idées produisent toujours des effets. Un autre évangile. Le Christ passa son ministère à prêcher la bonne nouvelle d'un gouvernement divin à venir sur terre à la place des gouvernements humains oppressifs bien connus de l'auditoire de Jésus. Les disciples lui demandèrent les signes qui leur montreraient quand cette époque serait près d'arriver. Matthieu 24, verset 3. La dernière question qu'ils lui posèrent avant son ascension était de s'inquiéter si ce moment était déjà venu. Acte 1, verset 6. À la fin de son ministère, nous constatons que l'apôtre Paul continuait à prêcher le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Acte 28 au verset 31. Même dans le dernier livre inspiré du canon du Nouveau Testament, Jésus-Christ inspira des visions à l'apôtre Jean concernant l'établissement littéral du royaume de Dieu sur cette terre. Apocalypse 19 au verset 11 à 21, ainsi que Apocalypse 20 au verset 4 à 6 et Apocalypse 21. En dépit de la clarté des enseignements de Jésus-Christ, nous lisons dans 2 Corinthiens 11, verset 3 à 15, que des faux ministres s'étaient introduits dans les congrégations et que 25 ans après la fondation de l'Église, un autre évangile était déjà prêché. Au IIe siècle, le véritable évangile annoncé par Jésus était qualifié d'opinion discutable par les chefs de l'Église chrétienne orthodoxe bourgeonnante. Au IIIe siècle, l'exemple du Christ et ce qu'il avait enseigné était porté au niveau de l'hérésie. Au cours du IIe et du IIIe siècle, l'évangile qui était prêché traitait presque exclusivement de la personne de Jésus. C'est également à cette époque que les concepts païens de l'immortalité de l'âme ainsi que du ciel et de l'enfer gagnèrent en crédit. La bonne compréhension relative au royaume de Dieu était bien conservée au IIe siècle, mais par des hommes comme Justin Martyr et Irénée. Cependant, il s'était sérieusement écarté du bon chemin en d'autres domaines, comme celui de l'enseignement de la loi divine. Voici ce qu'écrit Gibbon sur cette époque. L'assurance de l'établissement d'un millénium était soigneusement inculquée par ceux qui avaient discuté avec les disciples immédiats des apôtres. Mais lorsque l'édifice de l'Église fut presque achevé, cet élément fut mis de côté. La doctrine du règne du Christ sur la terre fut d'abord traitée comme une profonde allégorie, puis considérée à des degrés divers comme une opinion discutable et inutile, et enfin rejetée en tant qu'invention absurde, d'hérétique et de fanatique. Decline and Fall, volume 1, chapitre 15. Une grande partie de cette évolution est due à l'influence d'Origène. Origène était, comme nous le verrons brièvement, l'un des individus les moins bien pensants et pourtant accepté encore comme théologien chrétien. Il joua un rôle majeur en formulant l'enseignement catholique sur la Trinité, l'immortalité de l'âme et le royaume de Dieu. Beaucoup d'effets désastreux suivirent. L'abandon de la compréhension fondamentale de la véritable nature de l'Évangile et du royaume de Dieu. L'un d'entre eux fut la participation des membres de l'Église à la politique et dans l'armée. Les historiens sont quasiment unanimes à reconnaître que les premiers chrétiens évitaient de telles implications dans la vie publique. Mais tandis qu'ils inculquaient la règle d'une obéissance passive, ils refusaient de prendre part activement à l'administration civile ou à la défense militaire de l'Empire. Gibbon, The Triumph of Christendom in the Roman Empire, page 41. À la fin du IIIe siècle, cependant, il y avait des légions chrétiennes dans l'armée romaine. De prétendus chrétiens disaient que l'engagement politique était chose acceptable. L'âme immortelle. La doctrine de l'immortalité de l'âme, pratiquement universelle dans le monde païen, n'est enseignée ni dans l'Ancien Testament ni dans le Nouveau. Notez ce que admet The Interpreter's Dictionary of the Bible à cet égard. Dans la nouvelle version anglaise du roi Jacques, le mot anglais soul, âme en français, est employé presque exclusivement en tant que traduction du mot nefesh. Le mot soul en anglais, âme en français, avec tout ce qu'il sous-entend fréquemment, vient de la philosophie grecque platonisme, de l'orphisme et du gnosticisme, qui n'ont pas de rapport avec nefesh. Dans l'Ancien Testament, il ne signifie jamais une âme immortelle, mais essentiellement le principe de la vie ou l'être vivant. Push, dans le Nouveau Testament, correspond à nefesh dans l'Ancien Testament. Volume 4, page 428. Comment le concept de l'âme immortelle a-t-il fait son entrée au sein du christianisme? Pas plus tard qu'au début des années 200 après Jésus-Christ, quelques sectes juives commencèrent à adopter cette idée venant de l'influence grecque et à tenter de l'incorporer à l'enseignement biblique de la résurrection. Cela est illustré par des écrits apocryphes insérés dans l'Ancien Testament, comme le livre des Jubilés et 4e Maccabée, aussi bien que dans Philo et Josephus. Les gnostiques, avec leur insistance au dualisme païen, s'efforçaient d'imposer l'immortalité de l'âme en contraste avec la résurrection du corps. The International Standard Bible Encyclopedia déclare « Il faut distinguer entre la croyance platonique de l'immortalité de l'âme seule et l'enseignement biblique concernant la résurrection des morts. » Volume 2, page 810. À la fin du 2e et au début du 3e siècle, des écrivains comme Tertullien et Origène jouèrent un rôle majeur en profilant les futures doctrines catholiques du ciel, de l'enfer et de l'immortalité de l'âme. The ICB, Encyclopédia, révèle que les premiers chrétiens furent souvent influencés par la pensée grecque autant que par la pensée hébraïque. Par exemple, beaucoup furent influencés par les enseignements de Pythagore sur la division de l'âme en plusieurs parties et sa transmigration. Les enseignements platoniciens et néoplatoniciens, surtout de Plotin, furent à l'origine du point de vue d'Origène sur l'âme. Tertullien suivit la pensée des stoïciens. Volume 4, page 588. The Encyclopedia of Religion fait ressortir que beaucoup de théologiens influents catholiques venus plus tard interprétaient sans exception les concepts bibliques de l'âme selon la ligne platonicienne et dans la tradition générale d'Origène et de son école. La Trinité. Les opinions divergentes relatives à la nature divine produisent une multitude d'hérésies dont un grand nombre étaient contradictoires. Il semblerait qu'il y a eu autant de philosophes que d'écoles de philosophie. La pensée catholique traditionnelle de laquelle est issu l'enseignement protestant orthodoxe n'est que la marque particulière de l'hérésie qui supplanta celle qui lui était concurrente. Comme c'est elle qui perdura, à quelques nuances près, jusqu'à nos jours, c'est cette dernière que nous examinerons plus particulièrement. La racine de son orthodoxie, dont l'émergence remonte au IIIe siècle, ne se trouve pas dans les textes bibliques, mais dans les écrits philosophiques grecs. The Roman Catholic New Theological Dictionary fait un certain nombre d'aveux à cet égard. Dans son article Trinité, il admet: pris comme tel, l'Esprit n'est jamais explicitement l'objet d'un culte du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament ne dit pas non plus que l'Esprit intervient en interlocuteur avec le Père et le Fils. Plus loin, dans ce même article, des érudits catholiques modernes débattant de l'origine de l'idée de la Trinité admettent que le paganisme a influencé leur théologie. Les chrétiens versés dans la philosophie en vogue du néoplatonisme ont saisi l'occasion de proclamer et d'expliquer le message chrétien selon une façon de penser que comprenaient les classes cultivées de la société hellénisée. Ce mouvement, que la théologie catholique voyait d'un bon œil, aura un impact énorme sur le développement de la théologie chrétienne. Convaincus que le Dieu qu'ils, les philosophes grecs païens, prêchaient était le Père de Jésus-Christ et que le salut qu'ils proclamaient était celui de Jésus, les apologistes adaptèrent beaucoup d'idées hellénistes. Tertullien fut le premier à faire usage du terme « Trinité ». Origène s'inspira du néoplatonisme avec plus de méthodes que les apologistes et que Tertullien. En fait, son concept de la création éternelle était une adaptation de la doctrine néoplatonicienne selon laquelle le monde particulier des êtres spirituels aurait existé de toute éternité. Le Fils est éternellement issu ou engendré de la nature même de Dieu. Par conséquent, il est de l'essence du Père, mais second par rapport à lui. Origène, comme Tertullien, inventa un nouveau terme pour les trois composantes de la triade divine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, soit trois hypostases. La contribution majeure d'Origène à la formulation de la doctrine trinitarienne fut l'idée de la création éternelle. Son terme générique pour les trois hypostases sera adopté et affiné au IVe siècle. Page 1054. En examinant l'évolution de la théologie chrétienne de la fin du IIe siècle et du IIIe, les noms de Tertullien et d'Origène ne cessent d'être cités. Tertullien, 150 à 225 après Jésus-Christ, surnommé le père de la théologie latine, fut l'un des plus grands écrivains de l'époque et fut presque aussi influent qu'Augustin en ce qui concerne l'évolution de la théologie occidentale. Herdman, Handbook to the History of Christianity, page 77. Tertullien vécut à Carthage et fut l'un des premiers à enseigner que le feu de l'enfer commence après la mort. À la fin de sa vie, il rompit avec Rome et devint montaniste. Il accepta de donner du crédit aux déclarations de deux femmes possédées par le démon qui se disait prophétesse. Elles entraient en transe et parlaient en langue, en déclarant qu'elles étaient le paraclet, un mot traduit par Saint-Esprit dans l'Évangile selon Jean. Et elles enseignaient un message appelé la nouvelle prophétie. Origène, 185 à 254 après Jésus-Christ, fut l'érudit le plus grand et l'auteur le plus prolifique de l'Église primitive. Herdman, page 104. Vers 203 après Jésus-Christ, Origène succéda à Clément d'Alexandrie à la tête d'une école célèbre qui ambitionnait de préparer les chrétiens au baptême et de dispenser des cours de philosophie et de sciences naturelles au peuple. Comment expliquer la renommée d'Origène en tant qu'érudit et professeur de théologie? Selon Eusèbe, l'historien du IVe siècle de l'Église, peu de temps après avoir pris la direction de l'école d'Alexandrie, Origène se fit castrer. Cet acte fut accompli d'après sa compréhension, ou plutôt son incompréhension, des paroles du Christ dans Matthieu 5 au verset 29 et 30. Ce manque total de compréhension des Écritures est abondamment illustré par une grande partie de ce qu'il a écrit. Origène entrevit l'hypothèse d'un enfer de compensation, le purgatoire, International Bible Encyclopedia, enfer. Il joua également un rôle important dans le développement ultérieur du culte catholique voué à Marie, en étant le premier à émettre l'idée que Marie serait restée vierge après la naissance de Jésus. L'art religieux dans la célébration du culte. L'un des changements les plus drastiques qui affecta l'Église après le 1er siècle fut l'introduction de l'art religieux dans la célébration du culte. Cette innovation était si violemment et si manifestement condamnée par le second commandement qui interdit l'idolâtrie qu'elle mit du temps à se généraliser. Notez ce qui suit. Autant Tertullien que Clément d'Alexandrie considéraient cette interdiction comme absolue et obligatoire. Les peintures et les statues étaient l'apanage du monde païen et du culte démoniaque. En fait, les seuls chrétiens du deuxième siècle connus pour avoir possédé des représentations du Christ étaient des gnostiques radicaux. Cependant, avant la fin du deuxième siècle, des chrétiens manifestèrent ouvertement leur foi en utilisant l'art. Henry Chadwick, The Pelican History of Church, page 277. L'exemple le plus ancien d'église aux murs décorés de peintures et une construction du IIIe siècle localisée à Dura sur l'Euphrate, et encore s'agissait-il principalement de scènes inspirées de l'Ancien Testament, jusqu'à l'empereur Constantin, un grand nombre de dirigeants de l'église censément chrétienne étaient même scandalisés à l'idée de posséder les peintures ou des représentations du Christ. Nous lisons. Vers 327 après Jésus-Christ, l'historien cultivé Eusèbe de Césarée reçut une lettre de Constantia, sœur de l'empereur, lui demandant de décrire le Christ. Eusèbe lui fit une réponse très sévère. Il savait qu'on pouvait se procurer des représentations du Christ et des apôtres. On en vendait dans certains bazars de Palestine et il en avait vu lui-même. Mais Eusèbe pensait que les peintures et les commerçants qui vendaient ces souvenirs aux pèlerins n'étaient pas du tout chrétiens. Il pensait à tort que seuls des artistes païens étaient capables de penser à produire de telles représentations. Ibid, pages 280 et 281. Épiphane de Salamis, un dirigeant de l'église au IVe siècle, fut horrifié de trouver qu'une toile représentant le Christ était suspendue sous le porche d'une église de Palestine. Outre qu'il déposa une plainte véhémente auprès de l'évêque de Jérusalem, il déchira lui-même la toile et la détruisit. Néanmoins, à l'époque où il mourut, c'est-à-dire vers 400 après Jésus-Christ, les portraits du Christ et des saints commençaient à se répandre de plus en plus. Parallèlement à cela, l'adoration de Marie tenait une place croissante. L'Église impériale. Faisant suite à presque 3 siècles de persécution, plus ou moins perpétrées par le gouvernement romain, l'édit de Milan fut rédigé en 313 après Jésus-Christ. Sitôt après, le christianisme simplement toléré par l'Empire romain finit par devenir la religion d'État de l'Empire. Est-ce une victoire de l'Église édifiée par Jésus-Christ? Le véritable christianisme biblique avait-il triomphé de l'Empire romain? Loin de là. Ce que nous avons vu n'était que la victoire d'une religion influencée par le paganisme, s'étant approprié la terminologie chrétienne tout en maintenant les traditions païennes, désormais imposées par l'empereur romain Constantin, cette église était loin de ressembler à l'église judéo-chrétienne établie par Jésus-Christ au 1er siècle. Constantin prit conscience du rôle important que la religion pourrait jouer dans l'unification de son empire en donnant à son peuple une identité commune. Tout d'abord motivé par ses considérations politiques, Constantin constitua une alliance avec l'évêque de Rome et fut à l'origine du processus de la création d'un label chrétien qui devait couvrir son empire. Il orchestra le concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ et en assura même la présidence. N'oubliez pas que Constantin n'était même pas baptisé. En fait, il ne reçut le baptême que sur son lit de mort et il était si malade qu'il ne fut pas immergé. Son exemple personnel de simple aspersion contribua beaucoup à l'abandon de l'immersion et en faveur de l'aspersion. Le concile de Nicée chercha principalement à résoudre 2 points épineux qui n'avaient jamais été définitivement réglés auparavant. Il s'agissait de la controverse au sujet de la nature de Dieu, ainsi que de la question de la Pâque ou des Pâques. Fort de l'appui impérial, le point de vue de l'Église romaine prévalut au concile. Toute opposition fut réduite au silence. Constantin fut également responsable de faire du jour de l'adoration du soleil un jour chômé pour le palais et pour la plupart des activités économiques. Cet empereur romain était déjà un adorateur du Sol Invictus, le soleil invincible, et avec sa conversion, beaucoup d'éléments relatifs au culte du soleil, comme la croix et l'auréole, firent leur entrée dans le christianisme. C'est ainsi qu'à cette époque, des conversions populaires en masse commencèrent. Pour faciliter cela, les fêtes populaires comme Saturnalia et Lupercalia furent recyclées en nouvelle observance chrétienne qui s'appelait désormais Noël et la Saint-Valentin. Les dirigeants de l'Église de Rome déclarèrent qu'elle n'était qu'un moyen de permettre au christianisme d'atteindre les masses et qu'elle était surtout moins juive. L'antisémitisme était une force qui animait le christianisme romain. Où se trouvait l'Église bâtie par Jésus? Qu'était-il arrivé à l'Église établie et guidée par le Saint-Esprit à la Pentecôte de l'an 31? Où était le Christ et que faisait-il depuis lors? Au second et troisième chapitre de l'Apocalypse, Jésus a consigné des messages destinés aux sept églises d'Asie mineure. Au premier chapitre, l'apôtre Jean eut une vision du Christ glorifié qui se tenait au milieu de sept chandeliers d'or. Ces sept chandeliers symbolisent l'église de Dieu au cours des âges, Apocalypse 1 au verset 12 à 20. Les sept villes d'Asie mineure mentionnées dans l'Apocalypse étaient littéralement des relais successifs qui jalonnaient une voie postale romaine. Quelle est la signification de ces sept messages? Il est clair que ce message s'adressait littéralement aux sept congrégations du premier siècle mentionnées dans ce chapitre. Néanmoins, et cela est important pour nous aujourd'hui, ces congrégations étaient l'exemple type des attitudes et des problèmes qui ont caractérisé la communauté chrétienne aussi bien que les chrétiens, en particulier depuis l'époque de l'apôtre Jean, voire Apocalypse 2 verset 7. Lorsque nous examinons le contexte de l'Apocalypse, nous sommes forcés de reconnaître que ce livre est essentiellement prophétique. Apocalypse 1 verset 1 révèle que le but de ce livre consiste à montrer aux véritables serviteurs de Dieu les choses qui vont se réaliser dans le futur. Il est donc évident que les sept églises devraient d'abord représenter toute l'histoire de l'église de Dieu, fractionnée en sept ères ou époques successives. La première église mentionnée dans Apocalypse 2 est l'église d'Éphèse. Cette église était celle de l'ère apostolique. Au verset 2, nous lisons que la grande épreuve de cette première ère fut de prouver qui étaient les véritables apôtres du Christ et qui étaient les usurpateurs. Voir 2 Corinthiens 11, verset 3 à 15. Ce fut une ère qui travailla longuement et durement pour faire l'œuvre de Dieu et qui endura beaucoup d'épreuves et de persécutions. Les véritables chrétiens de l'ère d'Éphèse furent ceux qui rejetèrent et qui eurent en aversion les pratiques des Nicolaïtes, les disciples de Simon le magicien. Néanmoins, après la destruction du temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, le découragement et une léthargie spirituelle s'installèrent. Les frères s'attendaient à ce que le Christ revienne peu de temps après le siège de Jérusalem par l'armée romaine. Mais ils ne pouvaient pas ignorer que la plus grande partie de la Judée et de la Galilée était en ruine, investie par les légions romaines. Les juifs chrétiens étaient regardés comme des traîtres par leurs congénères et comme des fauteurs de troubles par les autorités romaines. La vie était devenue difficile et dangereuse. Cette ère perdit son premier amour, c'est-à-dire son zèle originel pour faire l'œuvre. Les membres commencèrent à perdre de vue la doctrine, les pratiques et les priorités qui définissaient leur véritable identité et leur véritable raison d'être. Le message du Christ aux chrétiens de l'ère d'Éphèse les incitait à se repentir et à retrouver leur zèle du début pour proclamer l'évangile afin que Dieu ne leur retire pas leur chandelier. L'apostasie de l'écrasante majorité de l'église de Jérusalem en 135 après Jésus-Christ, à l'époque où la seconde révolte juive fut jugulée par Rome, marque approximativement la fin de l'ère d'Éphèse. Ceux qui étaient restés fidèles jusqu'au terme de cette époque furent qualifiés de nazaréens, voire acte 24 au verset 5, et d'ébionites, les pauvres, par l'église dominante. Comme c'est également le cas aujourd'hui, une grande variété de groupes indépendants aux idées diverses, faites d'un mélange de vérités et d'erreurs, coexistèrent parallèlement à la véritable Église de Dieu. Ces groupes, considérés comme des hérétiques par l'Église de Rome, furent parfois confondus avec les Nazaréens ou les Ébionites. L'Église de Smyrne est la seconde des sept églises mentionnées dans l'Apocalypse. L'apôtre Jean mourut à Éphèse à la fin du premier siècle. Comme nous l'avons signalé au chapitre précédent, Polycarpe, évêque de Smyrne, fut un dirigeant fidèle qui succéda à Jean. Les églises dont il avait la charge furent la minorité qui conserva les fêtes divines durant le reste du IIe siècle. Dans sa vieillesse, Polycarpe fit même un voyage à Rome pour tenter de convaincre que l'évêque de Rome, Anicète, qu'il avait tort de ne pas respecter la date de la Pâque biblique, en observant à sa place le dimanche des Pâques et la célébration hebdomadaire de l'Eucharistie. Au cours des dernières décennies du IIe siècle, Polycrate, qui avait été entraîné personnellement par Polycarpe, lui succéda en endossant sa charge. Il demeura le seul dirigeant chrétien important qui suivit fidèlement l'exemple des apôtres de l'Église de Dieu de Jérusalem. Polycrate enseigna le véritable évangile de l'établissement littéral du royaume de Dieu sur la terre, l'état d'inconscience totale des morts jusqu'à la résurrection et l'importance d'observer la loi divine ainsi que les fêtes bibliques. Vers la fin du deuxième siècle, Victor, évêque de Rome, se mit à qualifier Polycrate et ses fidèles d'hérétiques, les accusant d'être une source de discorde et de schisme dans l'Église. En dépit des pressions de son isolement du reste des chrétiens, des persécutions et de l'hostilité de la société païenne environnante, Polycrate demeura ferme. Cependant, après sa mort, nous ne connaissons pas d'autres dirigeants de renom qui émergea des congrégations fidèles d'Asie mineure. Les véritables chrétiens perdaient de plus en plus de terrain devant l'Église romaine qui était plus populaire et moins exigeante. Leur nombre diminua et ils devinrent de plus en plus isolés, méprisés et qualifiés d'ébionites par l'Église principale. Des familles restées fidèles et des individus isolés furent contraints de déménager dans les contrées les plus reculées d'Asie mineure. Déjà à la fin du 1er siècle, des véritables chrétiens furent mis à la porte de certaines congrégations dirigées par des chefs apostats, 3 Jean au verset 9 et 10. Au 2e siècle, un reste qui refusait d'accepter les nouvelles vérités de l'évêque Marcus de Jérusalem furent obligés de quitter d'eux-mêmes la congrégation dont ils étaient membres. Cela eut lieu parce qu'il devenait de plus en plus visible que les dirigeants infidèles conduisaient l'Église dans la mauvaise direction. La grande épreuve de Smyrne était double. D'une part, elle consistait à réussir à faire la distinction entre la continuation de la véritable Église de Dieu et une autre organisation qui était en réalité l'émergence de la synagogue de Satan. D'autre part, elle eut à endurer la persécution et même à accepter la mort pour prix de sa fidélité à Dieu. Apocalypse 2, versets 9 et 10. Du point de vue matériel, les chrétiens qui vécurent à cette époque étaient pauvres et persécutés. Ils étaient rejetés en tant qu'hérétiques par le mouvement orthodoxe qui croissait rapidement, rejeté des juifs qui les considéraient comme des apostats et regardé avec suspicion par la société romaine païenne environnante. Cependant, ceux qui demeuraient fidèles en cette terrible époque étaient spirituellement riches et avaient une grande valeur aux yeux de Dieu. En fin de compte, ils obtiendront la couronne de vie. Apocalypse 2, versets 9 et 10. Après que Constantin eut commencé à soutenir la théologie romaine en 325 après Jésus-Christ, la plupart de ceux qui constituaient le reste de la véritable Église furent forcés de s'enfuir hors des frontières de l'Empire romain, dans les montagnes d'Arménie, et plus tard dans les régions balkaniques d'Europe. Ils étaient un petit nombre, sans éclat et sans richesse, regardés en ennemis d'État par l'Empire romain prétendu chrétien. Il était pourtant précieux aux yeux de Dieu. Il ne fut jamais dans les intentions divines que son Église croisse au point de devenir une grande organisation puissante qui devait christianiser le monde entier. Sa véritable Église devait rester un petit troupeau. Luc 12 au verset 32. Sa continuité devait être assurée non pas par une succession d'évêques superbes et puissants qui siégeraient dans une ville particulière, voire Hébreux 13 au verset 14, mais par une lignée de gens convertis et fidèles qui, quoique dispersés et persécutés, continueraient à adorer le Père en esprit et en vérité. Jean 4 au verset 23 et 24. À certaines époques, il y eut des dirigeants fidèles suscités par Dieu pour revitaliser son peuple et faire une œuvre visible de l'extérieur, du moins de manière circonscrite. À d'autres époques, l'Église de Dieu n'était visible que de Dieu seul, car elle existait dans la dispersion et l'obscurité, mais jamais elle ne mourut. Chapitre 3. L'Église au désert. Dans le prolongement du concile de Nicée, l'empereur Constantin et ses successeurs cherchèrent à anéantir toutes les mouvances non conformistes du christianisme. Les groupes qui refusaient de se soumettre aux enseignements et aux pratiques de l'Église établie, qui s'appelait maintenant Église catholique universelle de Dieu, n'étaient plus considérés comme de simples hérétiques, mais comme des ennemis subversifs de l'État. La véritable Église, symbolisée par une femme dans Apocalypse 12, fut forcée de s'enfuir au désert pendant 1260 jours. Prophétiquement, un jour biblique symbolise souvent une année. Nombre 14 au verset 34 et Ézéchiel 4 au verset 6. Donc la véritable Église devait rester cachée durant 1260 ans à partir du concile de Nicée. C'est ce qui arriva selon l'histoire. Une lumière scintillante continua à traverser les siècles obscurs. Sa flamme fut parfois sur le point d'être soufflée, mais elle ne s'éteignit jamais. L'érudit ou l'historien qui espère suivre l'errance de la véritable Église durant cette période de 1260 ans rencontre un certain nombre de difficultés. La raison en est que l'histoire de l'Église n'est pas celle d'une organisation humaine continue. L'histoire conservée de l'Église de Dieu qui respectait le sabbat fut presque totalement rédigée par ses ennemis qui la taxaient d'hérétique. il est fait mention de groupes appelés Policiens, Bocomiles et Vaudois, désignés ainsi par leurs ennemis de l'extérieur. Ces groupes, dont l'importance fut variable selon les époques, semblent avoir été constitués de véritables chrétiens conformes à ceux que l'Église de Jérusalem du 1er siècle. Une autre difficulté réside dans le fait que les enseignements de chacun de ces groupes commencèrent à changer avec le temps pour se rapprocher de ceux de leurs voisins catholiques et protestants. Il y a également le fait que des écrivains firent souvent un amalgame de tous les groupes hérétiques, y incluant la véritable Église sans distinction de doctrine. Ainsi donc, la grande difficulté ne consiste pas seulement à identifier qui enseignait quoi, mais également à déterminer quand une église cessait de faire partie de la véritable église et quand Dieu déplaçait cette dernière à un autre endroit. L'église s'enfuit au désert. Durant ces trois premiers siècles d'existence, l'église de Dieu dut sporadiquement affronter de rudes persécutions. Néanmoins, dans ce moment-là, elle n'était pas la seule visée, car elle partageait le sort des Juifs et d'une grande panoplie de sectes qui revendiquaient leur appartenance au Christ. Ces persécutions étaient locales et temporaires. De 303 à 313 après Jésus-Christ, l'empereur Dioclétien déclencha la pire de ces persécutions d'avant le concile de Nicée. Il s'agit des 10 jours mentionnés dans Apocalypse 2 au verset 10. Lorsque Constantin renforça son autorité sur l'Empire, les choses changèrent significativement. Gibbon nous dit que la dévotion religieuse de Constantin était particulièrement tournée vers le soleil. Les autels d'Apollon étaient couverts d'offrandes votives de Constantin et l'on faisait croire à la multitude crédule que l'empereur avait contemplé la splendeur de sa divinité protectrice. Le soleil était célébré universellement comme le guide et le protecteur invincible de Constantin. The Triumph of Christendom, page 209. 4 ans avant le concile de Nicée, Constantin proclama une loi qui eut des répercussions sur le peuple de Dieu. Pour la première fois en 321 après Jésus-Christ, Constantin imposa officiellement le dimanche, décrétant que tous les tribunaux, tous les habitants des villes et les ateliers devaient être au repos le dimanche. Venerabili di solis, c'est-à-dire vénérable jour du soleil. Ce fut la première d'une longue série de dispositions impériales dont la plupart furent incorporées au Code de Justinien. Environ 50 ans plus tard, l'Église catholique s'aligna sur cet édit impérial dans le canon 29 du Concile de Laodicée 363 après Jésus-Christ, qui interdit aux chrétiens de judaïser et de se reposer le jour du sabbat, les enjoignant en fait à travailler durant ce jour. Encyclopédia Britannica, 11e édition, à l'article dimanche. Le simple fait que, dans la dernière partie du 4e siècle, l'Église romaine eut jugé utile de légiférer contre l'observance du sabbat montre que des restes fidèles, particulièrement en Asie mineure, persistaient dans la vérité. Cette Église, de plus en plus forte, faisait pression pour que tout le monde accepte désormais la marque christianisée du culte romain du soleil. Ceux qui refusaient étaient facilement identifiés et ne pouvaient plus avoir d'emploi s'ils continuaient à demeurer dans les zones urbaines de l'Empire romain. En conséquence, au 4e siècle, les chrétiens appelés Nazaréens disparurent des régions peuplées d'Asie mineure. Durant 3 siècles, les restes de la véritable Église avaient séjourné en ces lieux. Mais à cause de la loi de Constantin concernant le dimanche, ils furent obligés de fuir. L'historien catholique Épiphane décrit ces individus qui différenciaient à la fois des juifs et des chrétiens catholiques. Avec les juifs, ils n'étaient pas d'accord parce qu'ils croyaient, eux, en Christ, avec les chrétiens catholiques, parce qu'ils sont éduqués selon la Bible. Cette hérésie des Nazaréens était localisée à Bérée, dans la vallée de la Béka, la Coelsyria des Romains, à mi-chemin entre Beyrouth et Damas, et dans la Décapole, dans la région de Péla, d'où elle commença après l'exode de Jérusalem lorsque les disciples s'y établirent. Ray Pritz, Nazarian Jewish Christianity, page 34. Les policiens font leur apparition en Arménie. Au 5e siècle, l'Église semble s'être déplacée dans les régions éloignées de l'est de l'Asie mineure vers l'Euphrate et dans les montagnes d'Arménie. Ces individus étaient appelés les policiens par leurs contemporains. Qui étaient-ils? Selon l'érudit arménien Nina Garsioan dans The Politian Heresy, il semblerait que les policiens eussent été la survivance du christianisme primitif en Arménie, page 227. L'auteur déclare également que les policiens étaient accusés d'être pires que les autres sectes à cause de leur judaïsme, page 213. Le message du Christ à cette troisième ère de l'Église de Dieu, les Policiens, est adressé symboliquement à Pergame, Apocalypse 2, versets 12 à 17. Le mot Pergame signifie « fortifié ». Or, on constate que les membres de l'Église de cette ère demeuraient dans des régions montagneuses reculées. Dans Apocalypse 2, verset 13, le Christ révéla que l'Église de Pergame demeurerait là où Satan avait son trône. Pergamum était un centre de l'ancienne religion, un mystère babylonien. En l'an 133 avant Jésus-Christ, Attal III, le dernier roi-dieu de Pergamum, mourut et légua son royaume à son titre de Pontifex Maximus, qui signifie « suprême édificateur de pont entre l'homme et Dieu » aux Romains. Les souverains romains conservèrent le titre et le portèrent jusqu'à l'empereur Gratien, qui le céda au pape Damase en 378 après Jésus-Christ. Les papes catholiques ont continué à porter ce titre jusqu'à nos jours. Historiquement, le terme « trône de Satan » fit également allusion à l'ancien royaume de Nimrod qui, dans la haute antiquité, englobait l'Arménie et la région supérieure de l'Euphrate, Genèse 10. L'église de Pergame, les Policiens, se déplaça dans cette même région après que Constantin eut imposé l'observance du dimanche à l'Empire romain. Déjà au 5e siècle, les Policiens étaient qualifiés d'hérétiques dans les documents catholiques. Cependant, le premier grand chef important de ce groupe, dont le nom fut célébré, était Constantin de Manalie, vers 620 à 681 après Jésus-Christ. Vers 654 après Jésus-Christ, il commença à prêcher, ce qui ranima l'Église. Avant son ministère, la majorité des membres de l'Église étaient les descendants des chrétiens qui avaient fui la Grèce et l'Asie mineure deux siècles plus tôt. Ils avaient conservé le nom de leur congrégation d'origine en se désignant entre eux comme membres de l'église d'Éphèse ou l'église de Macédoine. Bien qu'ils fussent à des centaines de kilomètres de leur contrée d'origine. Constantin de Manalie fut exécuté en 681 après Jésus-Christ par des soldats byzantins, des Romains orientaux, commandés par un officier nommé Siméon. Siméon fut si impressionné par l'exemple et les enseignements de Constantin qu'en 684 après Jésus-Christ, il revint, non plus en tant que militaire romain, mais comme converti. Siméon devint un prédicateur policien zélé, mais il fut martyrisé à son tour 3 ans plus tard, en 687 après Jésus-Christ. En 1838, le manuscrit d'un ancien livre intitulé en français « La clé de la vérité » fut découvert en Arménie. Des portions de ce livre datent de 800 après Jésus-Christ et nous fournissent de plus amples informations concernant les doctrines des Policiens, traduit en anglais par Fred Coney Beer vers 1900. Nous y apprenons que les Policiens s'abstenaient de faire usage de la croix dans le culte et l'art religieux, en disant qu'elle était un accessoire blasphématoire. Ils condamnaient la guerre et observaient la Pâque le 14e jour du premier mois du calendrier sacré. Les Policiens rejetaient l'Église catholique romaine en tant que représentante de l'Église de Dieu, et ils contredisaient la revendication papale d'héritage apostolique, ainsi que d'autres prétentions du même genre. Ils considéraient que la Trinité, le purgatoire et l'intercession des saints n'étaient pas bibliques. Dans l'introduction de sa traduction en anglais de « La clé de la vérité », Coney Beer décrit « Dans un contexte historique remarquable, la pratique des premiers Policiens, nous savons également, grâce à une note d'Ananias de Chirac, un écrivain et géographe arménien du 7e siècle, que les Polyanis étaient des quartodécimaliens, en référence au 14e jour du premier mois de l'année, et qu'ils observaient la Pâque à la date juive, comme à l'origine. La façon de s'exprimer de Jean de Hodzin laisse à croire que les anciens croyants d'Arménie du 7e siècle étaient des quartodécimaliens, comme nous le supposions. Coney Beer, introduction. Plus loin, Dr. Coney Beer déclare « On respectait probablement le sabbat et il n'y avait rien de particulier concernant le dimanche. » Il poursuivit en disant que les Policiens étaient probablement les restes d'une ancienne église judéo-chrétienne qui s'était dispersée dans le royaume des Séquiui et en Albanie en passant par Édesse. Cependant, à un certain moment de leur histoire, beaucoup de Policiens succombèrent à une erreur fatale. Ils pensèrent qu'il était possible de faire semblant de se conformer extérieurement à un certain nombre de pratiques de l'Église catholique pour éviter la persécution, pour autant qu'ils n'y souscrivaient pas dans leur cœur. Cette tendance au compromis conduisit beaucoup d'entre eux à faire baptiser leurs enfants et d'autres à assister à la messe. Le Christ avait prophétisé ces choses en réprimandant l'église de Pergame au sujet de ceux qui iraient vers des doctrines païennes immorales. Apocalypse 2, versets 14 et 15. À cause de ces compromis, le Christ permit qu'une sévère persécution s'abatte sur eux. Lorsque la persécution survint, certains policiers assiégés décidèrent de trouver une solution en s'alliant aux Arabes musulmans avec lesquels ils organisèrent par la suite de fréquentes incursions à l'intérieur de l'Empire byzantin. Tout au long de ces années, les désaccords entre policiers créèrent une multitude de fractures au sein du groupe. Avant d'atteindre l'année 800 après Jésus-Christ, une forte personnalité de l'Église, un homme du nom de Barnès, prit la direction des policiers en Arménie et promulgua une doctrine de revanche militaire. Peu de temps après, un autre ministre du culte du nom de Serge devint important parmi les policiers. Étant donné que Serge condamnait la guerre contre la position prise par Barnès, il fut accusé de provoquer un schisme dans le groupe. Mais en dépit des difficultés, le ministère de Serge dura plus de 30 ans. Cependant, après sa mort, la plupart de ses disciples commencèrent à prendre part à la lutte. La montée des Bogomiles. Au 8e et au 9e siècle, beaucoup de policiers arméniens étaient forcés de s'installer dans les Balkans par les empereurs byzantins. Ils furent contraints de jouer le rôle de tampon contre les tribus bulgares. Une fois installés dans les Balkans, les policiers commencèrent à s'appeler Bogomiles. Qu'enseignaient ces Bogomiles? Le baptême n'était accessible qu'aux hommes et aux femmes adultes. Les images et les croix étaient des idoles, Encyclopédie Britannica 11e édition. Il enseignait également que la prière devait être pratiquée à la maison et non dans des édifices spéciaux comme des églises. Il disait que la congrégation était constituée d'élus et que chaque individu devait tendre à la perfection du Christ. Leur ministère devait guérir les malades et chasser les démons. Au 10e et au 11e siècle, beaucoup de Bogomiles se dispersèrent à l'ouest et s'établirent en Serbie. Plus tard, un grand nombre trouva refuge en Bosnie à la fin du 12e siècle. Ces Bogomiles n'étaient qu'une version d'un groupe de sectes hérétiques aux noms divers qui fleurissaient en Asie mineure et dans le sud de l'Europe. Au cours du Moyen-Âge, les plus connus étant les Patarins, les Cathares et les Albigeois. Encyclopédia Britannica, 15e édition, volume 29, page 1098. Ils furent condamnés comme hérétiques parce qu'ils croyaient que le monde était gouverné selon deux principes. L'un était le bien, l'autre était le mal, et que toutes les affaires humaines résultaient d'un conflit entre les deux. Tout le monde visible appartenait à Satan, Encyclopédia Britannica, page 1098. De leur base des Balkans, l'influence des Bogomiles s'étendit au Piémont, en Italie, et dans le sud de la France à travers tout un réseau d'échanges commerciaux. À l'époque supposée où les Turcs ottomans dominaient la Bosnie, la semence de la vérité s'était étendue au Piémont, en Provence et dans les régions alpines de l'Europe. Les Cathares et les Vaudois. Au début du XIIe siècle, il y eut une redynamisation de la vérité avec l'émergence d'une nouvelle phase de l'Église, dirigée par Pierre de Bruys dans le sud-est de la France. Cette étape supplémentaire de l'histoire de l'Église est symbolisée par l'Église de Thyatire dans Apocalypse 2. Les vallées du Piémont du sud-est de la France furent décrites par le pape Urbain II comme étant infestées par les hérésies. Ce fut à partir de l'une de ces vallées, la vallée Louise, que Pierre de Bruys émergea en 1104 et qu'il commença à prêcher la repentance. Il fit d'abord beaucoup de disciples parmi les Cathares et plus tard dans la population. Les Cathares signifiant les parfaits, parmi lesquels de Bruys commença à prêcher, étaient les restes des premières colonies Bogomiles. Cependant, à cette époque, la majorité avait accepté une multitude de nouvelles doctrines étranges qui les avaient rapidement divisés. Sa prédication ainsi que celle de ses successeurs contribua à revitaliser l'Église dans les vallées du sud-est de la France durant la première moitié du XIIe siècle. De Bruys prêcha la restauration du christianisme dans sa pureté originelle. À la fin d'un ministère qui dura environ 20 ans, il périt sur un bûcher. Sans tarder, deux autres ministres solides lui succédèrent, Arnold et Henri. Après la mort d'Henri en 1149, l'Église s'étiola et sembla s'éteindre. Peu de temps s'écoula avant qu'un riche marchand de Lyon, Pierre Valdo, fût secoué par des circonstances insolites et se mit à prêcher l'Évangile en 1161, après avoir été bouleversé par la mort soudaine d'un ami intime. Valdo se procura une copie des Écritures et commença à étudier la parole divine. Il fut aussitôt stupéfait de constater que les Écritures enseignaient tout le contraire de ce que son éducation catholique lui avait appris. L'historien Peter Alix, citant un ancien document vaudois, la noble leçon nous dit: l'auteur, supposant que le monde allait vers sa fin, exhorte ses frères à prier, à être vigilants. Il répète les différents articles de la loi sans oublier celui qui concerne les idoles. Ecclesiastical History of Ancient Churches of Piedmont, pages 231, 236 et 237. Ailleurs, Dr. Alix décrit que les dirigeants vaudois déclaraient qu'ils étaient les successeurs des apôtres, qu'ils avaient l'autorité apostolique et qu'ils avaient les clés pour lier et délier. Ils considéraient que l'église de Rome était la prostituée de Babylone. Ecclesiastical History, page 175. Pierre Valdo fit de Lyon en France le centre de sa prédiction, de 1161 à 1180. Ensuite, à cause de la persécution, il se déplaça au nord de l'Italie. Aux environs de 1210 jusqu'à sa mort qui survint 7 ans plus tard, Valdo passa son temps à prêcher en Bohême et en Allemagne. Comme saint François d'Assise, Valdo mena une vie de pauvreté qui lui permit de prêcher librement. Mais la différence était que les vaudois prêchaient la doctrine du Christ, tandis que les franciscains prêchaient sur la personne du Christ. Encyclopédia Britannica, 11e édition. Quelles étaient certaines autres doctrines enseignées par les vaudois? Avons-nous la preuve que les vaudois observaient le sabbat? L'un des noms les plus anciens par lesquels on les désignait était celui de Sabbatati. Dans son ouvrage datant de 1873, History of the Sabbath, l'historien J.N. Andrew se réfère à un ouvrage plus ancien de l'historien calviniste suisse Goldastus, qui datait de l'an 1600. En parlant des vaudois, Goldastus écrivit: on les appelait insabbatatis, non parce qu'ils étaient circoncis, mais parce qu'ils observaient le sabbat juif. Andrews, page 410. Dr. Andrews se réfère plus loin au témoignage de l'archevêque Hucher, 1580 à 1656, qui avouait que beaucoup savaient qu'ils, les noms de Sabbatati ou Insabbatati, leur étaient attribués aux Vaudois parce qu'ils célébraient le culte le jour du sabbat juif, page 410. Même venant de la part d'érudits protestants de la fin du Moyen-Âge, il est clair qu'on savait que beaucoup de Vaudois avaient observé le 7e jour de la semaine. Dans son ouvrage de 1845, The History of the Christian Church, William Jones écrit: les inspecteurs firent un rapport au roi de France, ou Louis XII, qui régnait de 498 à 1516, qu'ils avaient visité toutes les paroisses où demeuraient les Vaudois, ils avaient inspecté tous leurs lieux de culte, mais ils n'avaient trouvé aucune image, aucun signe pour la célébration de la messe, ni aucun des sacrements de l'église de Rome. Ils observaient le jour du sabbat, ils baptisaient comme dans l'église primitive, ils enseignaient leurs enfants dans la foi chrétienne et les commandements de Dieu. Les Vaudois sont capables de réciter par cœur une grande partie de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ils dédaignaient les déclarations et les exposés des saints hommes, les pères de l'église catholique, et ils ne se réfèrent qu'aux Écritures. Les traditions de l'église romaine ne valent pas mieux que les traditions des pharisiens, car l'accent est porté par Rome davantage sur la tradition humaine que sur la loi divine. Ils dédaignent la fête des Pâques et toutes les autres fêtes romaines du Christ et des saints. The Handbook of Church History, page 234, 236 et 237. Encore des compromis. Comme pour les policiers, un sérieux problème affecta la plupart des groupes vaudois à la fin du Moyen-Âge. Beaucoup d'entre eux permirent aux prêtres catholiques de christianiser leurs enfants ainsi que de participer aux cérémonies religieuses catholiques. Sachant que de telles cérémonies étaient inutiles à leur salut, beaucoup firent mine de se conformer à Rome pour éviter la persécution tout en pratiquant la vérité en privé. Cette tendance avait été prophétisée à l'église de Thyatire dans Apocalypse 2, versets 20 à 24. Du point de vue de Dieu, ce qu'il était en train de faire était assimilable à de la fornication spirituelle. Et la participation à la communion catholique ne valait pas mieux que de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Qu'arriva-t-il aux Vaudois? Les Vaudois disparurent lentement des principaux centres habités et se réfugièrent dans les vallées retirées des Alpes. Là, au creux du Piémont, une colline de Vaudois s'était installée et elle donna son nom à ces vallées. Parfois, des tentatives furent lancées pour supprimer la secte des Vaudois. Mais la nature du terrain qu'ils occupaient, leur discrétion et leur isolement rendaient les opérations très difficiles. Encyclopédia Britannica, 11e édition. En 1487, le pape Innocent III écrivit une bulle appelant à leur extermination et une attaque sévère fut lancée contre leur citadelle. Un brouillard couvrit et entoura les armées catholiques et sauva les Vaudois d'une annihilation complète. Cependant, la majorité n'avait pas de consistance et était tombée dans la compromission. Lorsque la réforme commença quelques années plus tard, les dirigeants vaudois envoyèrent des émissaires auprès de l'église luthérienne. Donc, comme l'écrit l'Encyclopédia Britannica, les Vaudois cessèrent d'être des répliques du passé et ils commencèrent à être absorbés dans le protestantisme. Comme l'apostasie avait absorbé la majorité des Vaudois à la fin des années 1500, Dieu protégea un reste demeuré fidèle, des individus qui avaient été touchés par le ministère de Valdo. Au cours de ces 7 dernières années, passées en Bohême et en Allemagne, s'étaient convertis au XIIIe siècle, dans des contrées montagneuses des Carpates, au centre et à l'est de l'Europe. Des individus et des petits groupes survivaient encore. En fait, un reste fidèle a survécu dans l'isolement de ces régions jusqu'à notre époque moderne. Voir Apocalypse 2, versets 24 et 25. Comme le XVIIe siècle approchait, l'ère suivante de l'Église de Dieu s'apprêta à entrer en scène. Un reste de Vaudois allemands, parfois appelés Lollards de l'extérieur, avait pénétré en Hollande et en Angleterre dès le XIVe et le XVe siècle. Néanmoins, ce n'est que dans les dernières dizaines d'années du XVIe siècle que l'Église put commencer à émerger au grand jour en Allemagne et en Grande-Bretagne. Chapitre 4, l'enracinement dans un nouveau monde. Qu'est-il arrivé à l'Église bâtie par Jésus? Elle tint bon, et elle survécut à son incroyable histoire. Les hommes et les femmes qui furent les ancêtres spirituels du peuple de Dieu actuel firent preuve d'une foi et d'un courage exemplaires. Maintes fois, à travers les siècles, elle fut obligée de changer de contrée pour se protéger des persécutions ou des compromis et de l'apostasie interne. Lorsque cela arrivait, lorsqu'il semblait que la flamme de la vérité divine scintillait trop faiblement, le Christ suscitait toujours un autre dirigeant, fidèle, pour rassembler son peuple et redynamiser l'œuvre divine. À la fin des années 1500, des congrégations que le monde appelait sabbatistes, anabaptistes, sortirent de ce qui restait des Vaudois et se développèrent en Europe centrale, en Allemagne et en Angleterre. On les appelait sabbatistes, parce qu'ils prêchaient et observaient le sabbat du septième jour. On les disait anabaptistes, qui signifie rebaptisant, parce qu'ils refusaient d'accepter comme chrétienne une personne qui n'avait reçu qu'un baptême par aspersion alors qu'elle n'était qu'un nourrisson. Ils enseignaient que le baptême était réservé aux adultes qui avaient cru à l'évangile et qui s'étaient repentis de leurs péchés. Voir Acte 2, verset 38. L'histoire des anabaptistes. Il y eut des hommes remarquables parmi eux, comme Oswald Glade, Andreas Fischer et Andreas Eossi. Les territoires où ils exercèrent leur ministère furent d'abord l'Allemagne, la Pologne, la Hongrie et certaines parties de la région qui deviendra plus tard la Tchécoslovaquie et la Roumanie. Ces hommes enseignèrent le respect du sabbat et des jours saints, de même que le rejet du baptême, des enfants et de la Trinité. Dieu les utilisa pour fortifier les restes fidèles et pour porter le témoignage de la vérité dans ces régions où la réforme protestante faisait des ravages. Oswald Glade et Andreas Fischer se rencontrèrent en voyageant sur le Danube en 1527. Ils avaient tous deux écrit des livres pour défendre le sabbat, en réponse à ceux qui l'accusaient d'essayer de gagner le salut, car il enseignait que l'obéissance aux 10 commandements était nécessaire. Glade répondait: la loi morale dit que tu ne tueras pas, pourtant personne ne songe sérieusement à ne plus l'appliquer, et personne ne songerait à dire que le fait de ne pas tuer est une façon d'obtenir le salut par les œuvres. Daniel Yeachy, Sabbatarianism in the 16th Century, page 31. Glade fut exécuté à Vienne en 1546. Peu de temps avant de mourir, il avait dit à ses accusateurs: « Même si vous me noyez, je ne renierai pas Dieu ni sa vérité. Le Christ est mort pour moi, je continuerai à lui être fidèle et je voudrais mourir pour sa vérité avant de risquer de l'abandonner. » Page 35. Des livres et des tracts sur le sabbat et sur d'autres sujets semblables furent également publiés à la fin des années 1500 par Andreas Eossi, un Hongrois de noble naissance. Vers le milieu des années 1600, les restes de l'Église en Europe centrale furent de plus en plus persécutés par une Église catholique qui avait repris le contrôle après que la tempête de la réforme fut passée. Les véritables chrétiens durent choisir entre la persécution sans merci ou l'immigration vers une région qui leur offrait une plus grande liberté religieuse. Les régions reculées et montagneuses des Carpates, qui avaient autrefois hébergé les restes des Vaudois, devinrent le refuge de grand nombre d'entre eux. Au XVIIIe siècle, la majorité du petit reste allemand d'observateurs du sabbat immigra en Pennsylvanie. Il y eut également un certain nombre de personnes qui s'associèrent au mouvement anabaptiste, mais qui acceptèrent d'autres enseignements protestants issus de la Réforme. Ce sont eux qui furent les ancêtres spirituels des groupes comme les baptistes, les mennonites, les amish, qui existent encore aujourd'hui. Entre-temps, les restes de la véritable Église s'étaient installés en Angleterre. La scène était prête pour la cinquième étape de l'histoire de l'Église de Dieu, caractérisée par l'Église de Sardes. Le premier rapport concernant les congrégations d'observateurs du sabbat en Angleterre qui nous soit parvenu date de 1580. Au début des années 1600, un débat public fut engagé pour savoir si le sabbat biblique était encore valable. Très vite, quelques livres traitant de la loi divine et du sabbat furent écrits. Beaucoup d'entre eux furent conservé. John Trask fut l'un des premiers en Angleterre à publier un livre qui traitait du sabbat. Écrivant aux alentours de 1618, il fut emprisonné pour son action. Certains lui attribuent l'édification de l'église Milliard à Londres, la plus ancienne église des observateurs du sabbat, connue qui fonctionne encore et parente des futures églises sabbatistes d'Amérique. Quoique certains historiens datent la fondation de Milliard aux années 1580, bien avant l'époque de Trask, il est certain qu'il en fut le pasteur au début du XVIIe siècle. Plus tard, John Trask fut arrêté et jeté en prison. Il semblerait qu'il renia ensuite ses enseignements pour retrouver la liberté. Quoique sa femme eût refusé de le faire, elle resta ferme dans la vérité et passa les 15 dernières années de sa vie en prison. En 1661, John James, un autre ministre de l'Église de Dieu de la région londonienne, fut arrêté pour avoir prêché la vérité. Dans ses dernières phrases adressées à la cour, il leur demanda simplement de lire les écritures suivantes, Jérémie 26 au verset 14 et 15 et Psaume 116 au verset 15. Après son exécution, son cœur fut arraché et brûlé, son corps découpé en quatre parties, fut fixé aux portes de la ville et sa tête fut plantée sur un pieu à Whitechapel, en face de la ruelle où il tenait ses réunions. Tel était le prix horrible qu'un certain nombre était prêt à payer pour obéir à Dieu dans l'Angleterre du XVIIe siècle. Ivor Fletcher, The Incredible History of God's True Church, page 176. Francis Bumfield fut un autre grand dirigeant dont une copie de son autobiographie, The Life of Shem Asher, se trouve encore à la bibliothèque du British Museum. De 1672 jusqu'à sa mort en 683, il passa la majeure partie de son temps soit en prison, soit à fuir les autorités anglaises. Même durant sa détention à la prison de Dorchester, les gens s'assemblaient pour l'écouter prêcher. Ce fut à cette époque de persécution qu'un événement aux implications importantes se produisit. Stephen Mumford et son épouse, tous deux membres de l'Église, quittèrent l'Angleterre pour aller s'établir dans le Nouveau Monde, à Rhode Island, en 1664. Au début des années 1700, l'Église de Dieu en Angleterre était virtuellement morte. La plupart des ministres de cette époque prêchaient en même temps sur le sabbat et cumulaient la charge de pasteur d'église du dimanche, afin de s'assurer un revenu supplémentaire. Les compromis avaient repris là-dessus. L'Église dans la jeune Amérique. Une fois arrivée à Rhode Island, l'unique colonie américaine fondée sur le principe de la liberté religieuse, les Mumford commencèrent à fréquenter les baptistes de Newport. Néanmoins, ils ne s'y sentaient pas à l'aise à cause de leur croyance sur le sabbat. En 1665, au cours de la première année de l'établissement des Mumford en Amérique, Tessie Hubbard se mit également à observer le sabbat avec eux, devenant la première femme convertie en Amérique. Peu de temps après, son mari Samuel l'imita. En 1671, la première église d'Amérique qui observait le sabbat fut officiellement fondée avec 7 membres. William Hiscox fut le premier pasteur de l'église de 1671 jusqu'à sa mort en 1704. En 1708, une seconde église officiellement fut ouverte à Westerly, dont le nom fut changé plus tard en Nopington. Au cours du XVIIIe siècle, il semblerait que les églises des observateurs du sabbat s'établirent principalement dans les régions du Rhode Island, de la Pennsylvanie et du New Jersey. En même temps, des observateurs allemands du sabbat immigrèrent en Pennsylvanie. Peter Miller fut le plus connu des ministres allemands en Pennsylvanie. Il était en outre un ami personnel de Benjamin Franklin. La révolution américaine fut une période difficile pour le peuple de Dieu. L'histoire de cette ère montre que beaucoup de ministres et de membres étaient spirituellement morts. Plusieurs congrégations ne s'accordaient pas sur des questions d'implication dans la guerre et dans la politique. Jacob Davis, pasteur de Shrewsbury, de l'Église de Dieu du New Jersey, rejoignit l'armée comme aumônier. Beaucoup de membres suivirent son exemple et s'engagèrent également. Un membre, Simeon Maxson, eut le courage de protester et de traiter tous les membres qui soutenaient cette lutte charnelle d'enfants du diable. Richard Nichols, Six Papers to the History of the Church of God, page 60. Il fut chassé de la congrégation à cause de sa prise de position. La guerre avait appauvri et divisé les observateurs du sabbat de la région de Shrewsbury. Après la Révolution, nombreux furent ceux qui déménagèrent en Pennsylvanie et avant l'année 1800, la majorité d'entre eux s'était établie à Salem, en Virginie, nommée plus tard la Virginie occidentale. La région de Salem devint l'un des centres les plus importants du peuple de Dieu de l'année 1800 jusqu'au XXe siècle. Cependant, au cours de cette ère, il y régna peu d'unité et il ne fut pas réalisé d'œuvres significatives. Ce fut une histoire de division, d'apostasie, de léthargie de la part de la majorité influencée grandement par l'imminente famille Davis, qui procura beaucoup de ministres principaux à l'Église au XVIIIe et au XIXe siècle. La vaste majorité des frères était tellement morte spirituellement qu'elle suivit aveuglément des ministres apostats dans le protestantisme. William Davis, né au pays de Galles en 1663, passa des Quakers d'Angleterre pour devenir baptiste. En 1706, il accepta le sabbat et il sollicita un poste dans l'église de Newport, mais il fut rejeté parce qu'il avait conservé certaines fausses doctrines. En 1710, il fut finalement admis et en 1713, on lui permit de prêcher et de baptiser. Cependant, il croyait à la Trinité, à l'immortalité de l'âme et au ciel, chose absolument contraire aux doctrines enseignées par l'Église de cette époque. Durant le reste de sa vie, Davis fut tantôt d'accord et tantôt en désaccord avec l'Église. Davis joua un rôle important en dessinant le profil de ce qui allait devenir le mouvement des baptistes sabbatistes. Nichols, page 55. Au début, personne n'avait songé à donner un nom officiel à l'Église. Lorsque les congrégations s'échangeaient du courrier, elles se désignaient comme par exemple l'Église de Dieu qui est à Newport ou l'Église de Dieu de Piscataway. La plupart des membres l'appelaient simplement l'Église. Ceux du dehors l'appelaient les sabbatistes ou les baptistes sabbatistes. Lorsque l'Église de Newport fut officiellement enregistrée en 1919, elle existait déjà depuis 1671. Les conditions pour être reconnues légalement avaient changé. Elle prit le nom d'Église du Christ Baptiste du Septième Jour. En 1803, une assemblée générale fut organisée par 8 congrégations d'observateurs du sabbat du Nord-Ouest en vue de coordonner leurs efforts pour l'évangélisation et la production de littérature. En 1805, ils adoptèrent le nom d'Assemblée Générale Sabbatiste. Vers 1818, le nom fut changé en Assemblée Générale Baptiste du Septième Jour, et l'organisation grandit en englobant les congrégations des observateurs du sabbat qui n'étaient pas dans le Nord-Est. L'Église connut beaucoup de changements. Nous pouvons noter la progression des partisans de la Trinité soutenus par la famille Davis et d'autres. En 1811, une déclaration écrite confirmant l'enseignement traditionnel de l'Église stipule que les baptistes sabbatistes croient que le Saint-Esprit est la puissance opérante de la pensée divine. Certains croient que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois personnes absolues, distinctes et de même rang, qui sont néanmoins un Dieu. Nichols, page 91. 22 ans plus tard, dans le bulletin Expose of Sentiment de 1833, la position officielle était devenue celle-ci. Nous croyons qu'il y a une unicité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'ils sont pareillement divins et pareillement dignes de notre adoration. Nichols, page 91. Même en 1866, il est prouvé qu'un certain nombre de ministres répugnaient à utiliser le terme de Trinité. Durant cette époque, beaucoup de ministres et de membres s'étaient éloignés de la vérité et s'étaient mués en protestants qui s'assemblaient le dimanche. L'édition du journal de Westerly Sun du 18 novembre 1883 fait mention de la célébration de l'anniversaire de la plus ancienne église des observateurs du sabbat des États-Unis en publiant ce titre. l'Église célébra 275 années marquées par le changement. L'article disait que l'Église célébra son 275e anniversaire ce week-end, une aventure qui fut marquée par le changement imposé par la pression de la société en dépit des coutumes des observateurs du sabbat. Les changements furent opérés par une érosion régulière de la vérité et par un glissement vers le protestantisme. En fait, les églises baptistes du 7e jour du Rhode Island ont depuis longtemps cessé d'incarner la vivace Église de Dieu. Elles ne sont que des vieux murs, des musées dans lesquels la vérité fut un jour prêchée et où l'œuvre de Dieu fit un passage. Ces congrégations croient aujourd'hui à la Trinité, elles observent Noël et les Pâques, elles ont même construit des clochers qui sont des symboles païens au sommet de certains de leurs vieux édifices. Alors que le gros des observateurs du sabbat s'éloignait de plus en plus de la vérité, il demeura quelques individus et quelques congrégations fidèles. Nous avons retrouvé des rapports de l'église de Suffolk en Virginie-Occidentale qui, au début des années 1800, observait la Pâque et qui évitait de manger des aliments impurs. Ce petit groupe fut obligé de se retirer de l'Assemblée générale ainsi que des autres organisations des baptistes du 7e jour, à cause des différences doctrinales. Nichols, page 68. Vers 1870, une autre génération succéda et finalement la majorité de l'église de Suffolk accepta de faire partie de l'organisation des baptistes du 7e jour. Un autre groupe, du nom d'Église de Dieu à Wilbur, s'organisa en 1859 autour d'un ministre du culte nommé J.W. Niles de Pennsylvanie. Il existait encore dans les années 1930 et Andrew Duggar en parle dans son livre « A History of the True Church » en le qualifiant de la plus ancienne véritable église de Dieu existant actuellement dans l'état de Virginie occidentale. Page 311. Le mouvement adventiste. Dans les années 1830, un mouvement sortit des églises protestantes de l'état de New York. Il mettait l'accent sur le retour de Jésus-Christ sur cette terre et l'établissement d'un royaume littéral. Ce message, dont la proclamation débuta avec William Miller, était totalement différent de la doctrine protestante. Ses enseignements sur les prophéties suscitèrent beaucoup d'intérêt et déstabilisèrent beaucoup de gens, comme sa prédiction du retour du Christ en 1844. Après ce qui fut appelé la grande désillusion, la confusion s'installa chez ces protestants adventistes. Ridiculisés par les protestants traditionnels, certains furent tellement déçus qu'ils abandonnèrent complètement la religion, tandis que d'autres continuèrent à étudier les Écritures pour voir où ils s'étaient trompés. Frederick Wheeler était un ministre méthodiste de Washington qui avait accepté le message du second avènement du Christ prêché par les adventistes ainsi que l'établissement littéral de son royaume sur la terre. Aux environs des débuts de l'année 1844, il reçut une invitée dans sa congrégation, Madame Rachel Oaks, membre d'une congrégation des baptistes du 7e jour de Verona, dans l'état de New York, était venue rendre visite à sa sœur après avoir entendu M. Wheeler prêcher à sa congrégation qu'il fallait obéir à Dieu et observer ses commandements en toutes choses. Madame Oaks le rencontra après le service et lui signifia que l'observance du sabbat était une part importante dans l'obéissance aux commandements divins. Surpris, il promit d'étudier la question. Il finit par être convaincu de la vérité du sabbat et il commença à la proclamer. Cette vérité se répandit comme une traînée de poudre parmi les adventistes désillusionnés. Des centaines d'autres acceptèrent la vérité toute simple du véritable évangile et de la nécessité d'observer tous les commandements divins. Au sein de ces adventistes sabbatistes zélés, survint Roswell Cottrell, un ministre de longue date qui observait le sabbat. Sa famille avait fait partie des premiers membres de l'Église de Dieu en Rhode Island, mais à cause des doctrines, les Cottrell avaient quitté l'organisation qui ensuite avait pris le nom d'Église baptiste du 7e jour. Cela se passa à l'époque où cette église adopta officiellement des changements de doctrine comme la Trinité et l'immortalité présumée de l'âme. Environ 15 ans après avoir rejoint les adventistes sabbatistes, il se retrouva mêlé une fois encore à des controverses. James White, un ministre important qui avait émergé au sein des églises de Dieu adventistes observatrices du sabbat, fit pression pour organiser l'assemblée et adopter le nom officiel d'église adventiste du 7e jour. Un certain nombre s'opposa à ce changement comme n'étant pas biblique, de même qu'il refusa d'accréditer les visions d'Ellen G. White, la femme de White. Roswell Cottrell était contre les changements que James White voulait opérer. Dans le bulletin Review and Herald du 3 mai 1860, il écrivit : « Je ne crois pas au papisme ni à l'anarchie, mais à l'ordre selon la Bible, à la discipline et au gouvernement dans l'Église de Dieu. Nichols, page 162. En octobre 1860, au cours de la conférence de Battle Creek, dans le Michigan, l'immense majorité des personnes présentes rejetèrent le nom d'Église de Dieu et adoptèrent le nom d'Adventiste du septième jour pour marquer la teneur de leur croyance. Ce fut le nom qui avait été soutenu par les White. Les visions d'Ellen White furent de plus en plus considérées comme une nouvelle vérité pour l'Église. À travers les années 1860, la fracture entre la majorité qui suivit les White et la minorité des membres restants se fit de plus en plus nette. Durant la guerre civile, les membres de l'Église de Dieu adoptèrent une position ferme d'objecteurs de conscience à l'inverse des Adventistes du septième jour dirigés par les White. Une délégation des membres de l'Église de Dieu rencontra le président Abraham Lincoln en 1863 en vue d'obtenir le statut d'objecteur de conscience pour les jeunes hommes de l'Église. L'extrait suivant d'une lettre des frères de Marion dans l'Iowa, publiée dans le bulletin de l'Église « The Hope of Israel » du 7 septembre 1864, donne un aperçu de ce qui se passait à l'époque. Le 10 juin 1860, près de 50 d'entre nous adoptèrent une sorte de convention mise au point par M. E. Cornell. Presque un an et demi plus tard, le même émissaire brandissait publiquement divers écrits en même temps que la Bible et nous poussait à admettre le bien fondé de leur contenu en tant que règle de foi et de discipline. Une partie d'entre nous refusa d'accepter cette nouvelle manière de diriger notre Église. En conséquence, environ la moitié de l'Église décida d'accepter ces livres comme étant conformes aux Écritures et nous quittèrent, ou plutôt nous rejetèrent en nous traitant de rebelles. Les choses étant ainsi, nous fîmes valoir que nous n'étions pas des rebelles. Nous ne nous étions pas rebellés contre la Constitution que nous avions adoptée, car nous demeurions fermes à son égard. Par conséquent, l'accusation de rébellion s'appliquait plutôt contre ceux qui l'avaient proférée, puisque c'était eux qui avaient abandonné leur position d'origine pour en adopter une nouvelle. Robert Coulter, The Story of the Church of God, Seventh Day, page 16. Au mois d'août 1863, le petit bulletin de l'Église, The Hope of Israel, commença à être imprimé au Michigan. Il débuta avec à peine 40 abonnés. En 1866, il revint à Marion dans l'Iowa et en 1888, il déménagea encore à Stanbury dans le Missouri. Au cours des années, le bulletin changea plusieurs fois de nom pour s'appeler finalement The Bible Advocate. Jacob Brinkerhoff fut l'une des figures les plus importantes de l'Église de cette époque. Il édita le bulletin de 1871 à 1887, puis de 1907 à 1914. En 1874, A. E. Duggar, senior du Nebraska, entra à plein temps dans le ministère de l'Église de Dieu. Des années 1870 jusqu'à celles qui précédèrent la Première Guerre mondiale, les anciens Brinkerhoff et Duggar écrivirent beaucoup d'articles qui permirent de clarifier et de solidifier la doctrine dans l'Église. Des articles concernant les prophéties, les aliments purs et impurs, la dîme, la façon correcte d'observer la Pâque au bon moment et l'explication du terme « être né de nouveau » furent publiés. Dès 1866, des articles basés sur la prophétie démontraient que les Juifs restaureraient une patrie en Palestine. Beaucoup de vérités furent restaurées et enseignées, mais en dépit de tout cela, les efforts de l'Église furent minimes et ne touchèrent qu'un petit nombre de personnes, principalement dans les régions agricoles du Middle West. Cette phase de l'histoire de l'Église détaillée dans ce chapitre est décrite par le message du Christ destiné à l'Église de Sardes dans Apocalypse 3, versets 1 à 6. La Bible dit que, bien qu'elle passe pour être vivante, elle est spirituellement morte. Sois vigilant et affermi, le reste qui est près de mourir. Apocalypse 3, verset 2. Quoique cette Église soit dans l'ensemble spirituellement léthargique et même morte, le Christ a dit que certains parmi elles n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Verset 4. Chapitre 5. Schisme, rupture et nouveau commencement. Il est clair que le XXe siècle fut l'époque durant laquelle l'histoire connut les changements les plus rapides. Le siècle débuta avec le transport à cheval et en charrette, et 70 ans plus tard, des hommes débarquaient sur la Lune et en revenaient. Ce siècle connut deux grandes guerres mondiales, ainsi que l'introduction d'armes de destruction massive. Pour la première fois de son histoire, l'homme devint capable d'annihiler toute forme de vie sur cette planète, tout comme Jésus-Christ l'avait prédit. Matthieu 24, verset 22. Ces temps de la fin sont également caractérisés par une prophétie particulière selon laquelle le véritable évangile du royaume de Dieu sera prêché au monde entier pour servir de témoignage. Verset 14. Le premier quart du XXe siècle. Au commencement du XXe siècle, l'Église de Dieu était petite et dispersée, composée d'à peine 1000 membres vivants, pour la plupart dans le Middle West américain. En 1900, l'Assemblée générale de l'Église de Dieu était légalement reconnue dans l'État du Missouri. Comme nous l'avons écrit au chapitre précédent, le nom du bulletin publié par l'Église était devenu « The Bible Advocate ». En 1903, Gilbert Cromer, ministre depuis 1850, est parmi les fondateurs de l'Église après la rupture d'avec les adventistes du septième jour dans les années 1860, mourut à l'âge de 87 ans. En 1910, Alexander de Geer, qui avait servi comme dirigeant depuis le début de l'Assemblée générale ainsi que comme éditeur de The Bible Advocate, mourut également. Un troisième pionnier, fidèle, Jacob Brinkerhoff, décéda lui aussi en 1916. Il avait été l'éditeur intermittent de l'Advocate de 1871 à 1914. M. Brinkerhoff fut largement considéré comme le dirigeant de l'Église le plus éminent de son époque. Jacob Brinkerhoff avait servi l'Église de Dieu pendant plus de 40 ans. Au lieu de s'acheter une maison en 1874, Brinkerhoff utilisa l'argent pour financer l'achat d'une presse à imprimer. En faisant tout lui-même, il empêcha l'effondrement total de l'œuvre. Richard Nichols, History of the Seventh-day Church of God, page 85. Andrew N. De Geer, le fils d'Alexander De Geer, commença son ministère dans l'Église de Dieu en 1906. Il devint à la fois président de l'Assemblée générale et éditeur lorsque Jacob Brinkerhoff se retira en 1914 de son poste d'éditeur de The Bible Advocate. Durant le temps qu'il fut président et éditeur, De Geer exerça une forte influence sur l'Église. Au début de la présidence de De Geer, l'Église de Dieu connut une période de croissance plus grande et plus rapide que par le passé. Butler, pages 41 et 42. Andrew De Geer resta aux commandes de juin 1914 jusqu'en 1932. L'organisation et le gouvernement au sein de l'Église de Dieu étaient longtemps demeurés un sujet de controverse. Réalisant qu'aucune œuvre ni rien d'important ne pourrait être réalisé avec le peu d'argent arrivant au siège central à Stanbury, moins de 1000 dollars américains en 1917, Andrew De Geer prit des dispositions pour corriger la situation. En 1922, il envoya un questionnaire aux membres pour savoir quel était le montant des dîmes qu'ils avaient versé au cours de l'année précédente et à qui ils l'avaient remis. Il ressortit de cette enquête que la plupart des dîmes avaient été collectées par différents ministres et que l'un d'entre eux, travaillant particulièrement peu, s'était taillé la part du lion. Aussitôt, il fut décidé que toutes les dîmes seraient versées aux assemblées territoriales et qu'un dixième de ces dîmes serait envoyé à l'Assemblée générale. En 1923, le revenu de l'Assemblée générale à Stanbury grimpa à 18 000 dollars. Vers 1904, G.G. Rupert fit son entrée dans le ministère de l'Église de Dieu. Auparavant, M. Rupert avait été ministre de l'Église adventiste du septième jour et avait établi des congrégations en Amérique du Sud. Après plusieurs années de désaccords doctrinaux de plus en plus marqués, il quitta les adventistes en 1902. En autre chose, M. Rupert avait compris que le sabbat, de même que les jours saints annuels, étaient imposés à l'Église du Nouveau Testament. En 1913, Jacob Brinkerhoff publia une série d'articles de G.G. Rupert dans The Bible Advocate sur le thème de la loi divine montrant que les jours saints de Lévitique 23 étaient obligatoires pour l'Église du Nouveau Testament. Alors que l'Église aux États-Unis manifesta peu d'intérêt à son enseignement, beaucoup de congrégations d'Amérique du Sud qu'il avait établies suivirent son exemple en quittant les adventistes et encore acceptèrent les jours saints de Dieu. À cause de désaccords concernant certaines doctrines et particulièrement sur l'organisation et le gouvernement dans l'Église entre M. De Geer et M. Rupert, ce dernier devint un ministre indépendant de l'Église de Dieu et il publia sa propre revue « The Remnant of Israel », le reste d'Israël jusqu'à sa mort en 1922. Les années 1930 et 1940, un nouveau commencement. À la fin des années 20 et au début des années 30, l'Église de Dieu était virtuellement paralysée à cause d'affrontements politiques et de querelles doctrinales internes. En 1929, l'Assemblée de l'Église fut marquée par des confusions et des dissensions considérables. Les sujets de controverse tournaient autour de naître de nouveau, des aliments purs et impurs, de l'usage du tabac, de la date de la Pâque, le 14 ou le 15 Nissan, et de l'œuvre du Saint-Esprit, le pentecôtisme. Le nombre de conversions s'abaissa et l'œuvre de l'Église était au point mort. Ce fut dans ces conditions qu'en automne 1926, l'histoire de l'épouse de M. Herbert Armstrong croisa celle de l'Église de Dieu. Le ministère de M. Armstrong eut sans aucun doute un plus grand impact sur les gens que n'importe quel autre ministre dans l'Église de Dieu depuis le premier siècle. Mis au défi par son épouse au sujet du jour du sabbat chrétien et par sa belle-sœur sur la question de l'évolution, M. Armstrong commença une étude intensive qui dura 6 mois. Au printemps de l'année 1927, il commença à comprendre qu'il avait grandi au milieu d'un grand nombre de croyances qui n'étaient pas bibliques. Il apprit que le sabbat du 7e jour, de même que les fêtes divines annuelles, devait être observé par les chrétiens d'aujourd'hui. À la suite de cette étude intensive, M. Armstrong fut confronté à cette question. Où se trouve la véritable Église? Il finit par entrer en contact avec des frères de l'Église de Dieu de Willamette Valley, en Oregon, car il avait constaté qu'ils gardaient plus de vérité que tout autre groupe. Vers 1928, M. Armstrong commença à soumettre des articles pour être publiés dans The Bible Advocate. À cette époque, comme il n'y avait pas de ministre en Oregon, les frères de Gênes lui demandaient fréquemment de parler devant la congrégation. En juin 1931, M. Armstrong fut ordonné ministre par l'Assemblée de l'Oregon de l'Église de Dieu. De là commença un ministère qui dura 55 ans. Entre-temps, les troubles montaient dans l'Église de Dieu. À l'Assemblée générale tenue en août 1933, Andrew Duggar, le dirigeant principal depuis plus de 20 ans, perdit son poste par suite d'un vote. Cela précipita une crise qui déchira l'Église. D'un côté, Andrew Duggar et d'autres tenaient à la réorganisation du gouvernement de l'Église, aux aliments purs, à la proscription du tabac et à la tenue de la Pâque le 14 Nissan. De l'autre bord se trouvait Burt F. Mars qui conduisait un groupe d'indépendants d'accord pour manger du porc et fumer du tabac ainsi que pour célébrer la Pâque le 15 Nissan. La question de la date de célébration de la Pâque fut débattu durant 3 jours lorsque survint la décision. Nichols, page 151. Andrew Duggar sortit de l'Assemblée générale de l'Église de Dieu, dont le siège central se trouvait à Stanbury, et tint une réunion afin de réorganiser l'Église à Salem, en Virginie-Occidentale, en novembre 1933. Une nouvelle structure vit le jour composée de 12 apôtres, 70 anciens et 7 veillants sur les finances. Les postes furent tirés par le sort au lieu d'être soumis au vote. M. Armstrong de l'Oregon fut choisi parmi les 70. Lui-même et la plupart des frères d'Oregon avaient quitté l'organisation de Stanbury pour la nouvelle organisation dont le siège était à Salem. Bien que M. Armstrong ne perçoive pas de salaire du siège de Salem, il accepta d'exercer son ministère et de soumettre des rapports ministériels mensuels. Les divisions au sein de l'Église de Dieu du 7e jour engendrèrent beaucoup de dissensions parmi les membres et les dirigeants. Beaucoup de membres et de prospects furent découragés à cause d'attaques fréquentes lancées d'une église à l'autre, à maintes occasions des ministres démissionnèrent en laissant leurs membres déconcertés. En d'autres circonstances, des membres furent manœuvrés comme des pions dans la lutte entre ministres qui exploitaient leur loyauté et leur générosité. Au cours des années 1930 et 1940, l'augmentation du nombre des membres n'atteignait pas le nombre des années 1920, et ne s'en approchait même pas. Coulter, page 55. En fait, le nombre des membres diminua durant cette période. À l'époque où tout cela se passait, le fondement était en train d'être posé pour préparer une œuvre divine qui allait avoir un impact mondial sans précédent. Au lieu de dépenser son énergie à des luttes politiques internes, M. Armstrong commença à diffuser régulièrement un programme radiophonique hebdomadaire pour prêcher l'Évangile. L'émission s'appelait Radio Church of God, l'Église de Dieu à la radio, et fut d'abord diffusée sur Corée, une station de gênes de 100 watts. L'émission radiophonique fut lancée le premier dimanche du mois de janvier 1934, et en février, M. Armstrong commença la publication d'une revue ronéotypée intitulé The Plain Truth, envoyé à 200 personnes environ. Le Christ était en train de l'utiliser pour que surgisse la sixième ère de l'Église représentée par l'Église de Philadelphie. Apocalypse 3, versets 7 à 13. Conjointement au programme radiophonique hebdomadaire, M. Armstrong dirigeait des campagnes d'évangélisation dans la région. Bien que plusieurs églises fussent établies grâce à son travail, ces nouvelles congrégations finissaient par s'éloigner ou par s'égarer, par manque de ministres fidèles disposés à paître le troupeau. À cette époque, M. Armstrong entra en conflit avec le siège central de l'église de Salem à cause de ses enseignements concernant l'identité d'Israël et des sabbats annuels. Bien que dans une lettre personnelle, Andrew Duggar eût admis que les enseignements de M. Armstrong sur les 10 tribus perdues étaient corrects, il refusa de publier un article traitant de ce sujet dans The Bible Advocate. En fin de compte, le sujet des jours saints fut exposé à l'antenne en 1937. Ce qui suit est extrait des rapports de la réunion tenue à Détroit, au Michigan, des 5 au 10 mai 1937, par le bureau des 12 apôtres de l'Église de Dieu du 7e jour. Siège central de Salem, Virginie occidentale. Le 7 mai à 13h, lecture de la lettre de l'ancien Armstrong aux 12. Lecture des articles de l'ancien Armstrong d'une durée de 20 minutes, chacun concernant la fête des pains sans levain, la Pâque, la Pentecôte, la fête des tabernacles, etc. Suivi à chaque fois d'une discussion pour ou contre de la part des anciens. La décision fut prise selon la résolution qui suit. Attendu que certains ont troublé les églises en leur enseignant qu'il fallait observer la fête des pains sans levain et les sabbats annuels. Nous réaffirmons les enseignements de l'Église sur ce point que nous n'observons pas une telle coutume. John Keith, History of the Church of God, page 180. Selon les rapports officiels fournis par Virginia Royer, archiviste de la maison des publications de l'Église de Dieu à Salem, ce fut en 1938 qu'il, lui, M. Armstrong, fut retiré son autorisation de prêcher, car il persistait à enseigner des doctrines contraires à celles de l'Église. Page 180. Bien que M. Armstrong n'eut plus le droit de se réclamer de l'Église de Dieu du 7e jour après 1938, il continua à prêcher avec plus de force qu'auparavant. Comme il est rapporté dans la revue Good News d'avril 1939, l'émission hebdomadaire Radio Church of God était écoutée par quelques 100 000 auditeurs du Nord-Ouest Pacifique. Ce fut également l'année où, pour la première fois, se déroula la fête des tabernacles pendant 8 jours complets à Eugene avec une assistance de 42 personnes. De 1933 à 1938, les services n'étaient organisés que pendant les jours saints de la fête. Outre M. Armstrong, d'autres anciens de l'Église, comme John Keith, prirent la parole durant la fête jusqu'en 1945. Vers le milieu de l'année 1942, le nom du programme radiophonique changea de Radio Church of God en The World Tomorrow, le monde à venir. Ensuite, débuta une période expérimentale de diffusion d'émissions journalières qui commença dans la région de Los Angeles. À la fin de l'été 1942, plus de 1700 personnes assistèrent à une campagne d'évangélisation que M. Armstrong tint au théâtre Biltmore de Los Angeles. The World Tomorrow se répandit à travers tout le pays avec une émission dominicale sur Who à Des Moines et en 1943 sur Away à San Antonio. Vers 1944, la circulation de Plain Truth atteignait 35 000 exemplaires. Tandis que l'impact de l'œuvre de Dieu croissait à travers M. Armstrong, l'Église de Dieu du 7e jour continuait à se fissurer et à produire de plus en plus de groupes et de ministres indépendants. Les efforts furent produits en vue de rétablir l'unité et aboutir à la fusion des groupes de Salem et de Stanberry en 1949. Néanmoins, cette fusion engendra elle-même des fractures supplémentaires et 20 ans plus tard, en 1969, la publication d'origine de l'Église de Bible Advocate ne circulait qu'à un peu plus de 2000 exemplaires. L'Église de Dieu du 7e jour n'était plus que la phase finale de l'Église de Sardes mentionnée dans Apocalypse 3. Rappelez-vous qu'elle est décrite comme spirituellement morte, quoique quelques-uns d'entre elles marcheront avec le Christ en vêtements blancs. Des portes ouvertes et une croissance importante. En 1946, Dieu permit que l'Église de Dieu débutât par la radio, et l'œuvre s'accomplissait à travers M. Armstrong. Afin de résoudre les impératifs d'enregistrement et des émissions journalières, pour lesquelles Hollywood était techniquement bien équipé, et conscient de la nécessité d'ouvrir un collège pour entraîner les ministres compétents et fidèles, M. Armstrong envisagea de déménager au sud de la Californie. Il trouva un domaine approprié à Pasadena et fit la démarche pour son acquisition. À cette époque, M. et Mme Armstrong firent un voyage en Europe pour étudier la possibilité d'établir une branche européenne du collège en vue de préparer des ministres pour une œuvre internationale. Personne ne pourrait accuser M. Armstrong d'avoir eu des idées étroites. Cependant, la plupart des gens auraient pu croire que ce projet était totalement surréaliste. Après tout, seules 50 personnes assistaient à la fête des tabernacles à Belcalf Spring en 1946. Le collège américain n'était même pas construit et aucunement en état de fonctionner. Il n'y avait que de grands rêves et un domaine en déclivité bâti de deux bâtiments que M. Armstrong tentait de négocier. Cependant, la vision et la capacité de penser large étaient des qualités que M. Armstrong manifesta plus qu'aucun autre dirigeant de l'Église de Dieu de son époque. L'ambassadeur au collège ouvrit ses portes en automne 1947 avec 4 étudiants et 8 professeurs. Cependant, l'expansion et une branche du collège en Europe devaient encore attendre un moment. En 1949, les étudiants de l'ambassadeur au collège entamèrent leur première tournée de baptême dans le pays. Le fruit de ces premières tournées de baptême se manifesta par un bond du nombre de participants à la fête des tabernacles qui passa de 150 en 1951 à 450 en 1952. En décembre 1952, M. Armstrong ordonna les premiers évangélistes de cette phase de l'Église de Dieu. Richard Armstrong, Raymond Cole, Herman He, Paul C. Meredith et Roderick C. Meredith. En février 1953, Marion et Raymond McNair furent ordonnés, portant ce nombre à 7. Commença alors une période de croissance et d'expansion rapide de l'œuvre. Après avoir suivi les cours de 2 premières classes de l'ambassadeur au collège, les étudiants étaient diplômés. Une école supérieure de théologie fut fondée. M. Armstrong utilisa l'école supérieure de théologie comme tremplin pour aborder plus profondément de nombreux sujets. Les plus importants étaient ceux qui traitaient de la nature de Dieu et de la destinée humaine. À travers son histoire, l'Église de Dieu a toujours été contre le concept de la Trinité. Néanmoins, ce n'est pas avant le printemps 1953 que M. Armstrong et les autres ministres commencèrent à exposer clairement les enseignements bibliques qui révèlent que Dieu est une famille au sein de laquelle les êtres humains convertis naîtront lors de la résurrection des morts. Au départ, ils avaient cherché à prouver que l'idée de la Trinité était une erreur. Au lieu de cela, ils trouvèrent une vérité importante constamment réaffirmée dans la parole divine. Quoique cette compréhension fût clairement sous-entendue dans tout ce qui était enseigné auparavant. M. Armstrong et les autres furent mis au défi d'accepter cette vérité simple mais profonde et fantastique. Cet enseignement important des Écritures selon lequel nous pourrons naître un jour dans la famille divine est peut-être la seule vérité majeure que Dieu réintroduisit dans l'Église de Dieu à travers M. Armstrong. 2 pas de géant firent progresser la prédication de l'Évangile en 1953. L'année commença avec l'ouverture de l'une des plus grandes portes de l'histoire de l'œuvre. Le 1er janvier, Radio Luxembourg, la plus puissante station de radio de l'époque, commença à diffuser The World Tomorrow en Europe. En outre, M. Armstrong obtint un temps d'antenne pour une émission journalière diffusée dans tout le réseau d'ABC Radio Network. En février 1953, Richard Armstrong, le fils aîné de M. Armstrong, qui mourut dans un accident de voiture en 1958, ouvrit un bureau à Londres. En 1954, accompagné de son épouse, Loma, de Richard Armstrong et de Roderick C. Meredith, M. Armstrong dirigea les campagnes d'évangélisation en Grande-Bretagne. En 1956 jusqu'en 1957, M. Meredith revint pour mener d'autres campagnes. En 1958, de retour aux États-Unis, il fut nommé second vice-président de l'Église. La revue Plain Truth de juin 1960 comporte un article spécial de M. Armstrong destiné aux lecteurs britanniques à qui on annonçait une série de conférences qui devaient être présentées dans leur pays par M. Meredith. M. Meredith est entièrement consacré, extrêmement sincère. Il vient vous parler de choses que vous ne pouvez entendre ailleurs. Vous serez secoué, surpris. Vous entendrez plus de vérités authentiques en une seule soirée que la plupart des gens n'ont appris au cours de leur vie. Fletcher, page 256. En octobre 1960, le second ambassadeur au collège ouvre ses portes à Brickheadwood, en Angleterre, puis en 1964, un troisième campus ouvre à Big Sandy, au Texas. Comme le nombre de ministres capables de faire des tournées de baptême et de diriger des églises augmentait, l'œuvre engrangerait la moisson. L'assistance aux fêtes passa de 750 en 1953 à plus de 2000 en 1957. En 1961, le nombre total atteignait presque 10 000 et en 1967, il dépassait les 40 000. La circulation de The Plain Truth atteignit le 500 000 en 1964 et le 1 000 000 en 1967. Vers la fin de l'année 1960, The World Tomorrow était diffusé quotidiennement et le nombre d'auditeurs se chiffrait par dizaines de millions de gens de par le monde. Avec cette montée d'intérêt pour la parole divine de par le monde, la dénomination officielle de l'organisation fut changée en 1967 en Worldwide Church of God, Église universelle de Dieu, au lieu de Radio Church of God. Durant toute la croissance des années 1960, Garner Ted Armstrong, le fils cadet de M. Armstrong, fut le principal présentateur du World Tomorrow, ainsi que le vice-président de l'Église. Dr. Simeon Reddit, qui avait reçu en janvier 1966 son doctorat en théologie de l'École supérieure de théologie de l'Ambassadeur College, fut nommé directeur du ministère aux États-Unis. En 1967, Madame Loma Armstrong décéda à l'âge de 75 ans. Vers la fin des années 1960, des signes de futurs problèmes au sein de l'œuvre commençaient déjà à poindre. En janvier 1972, l'Église fut secouée par la mise à pied de Garner Ted Armstrong. 4 mois plus tard, il réintégrait son poste. Les années 1970 virent l'émergence grandissante d'un esprit libéral et permissif dans l'Église en Amérique et partout ailleurs. En 1974, un certain nombre de ministres et de membres quittèrent l'Église. Les confusions doctrinales ajoutées à des accusations de scandale prirent l'œuvre d'assaut. Après s'être remis d'une crise cardiaque grave en 1977, M. Armstrong finit par enlever toute responsabilité à son fils au printemps 1978 et à se séparer de lui au mois de juin. En janvier 1979, l'Église fut momentanément frappée d'une liquidation judiciaire imposée par l'État de Californie. De Tucson en Arizona, M. Armstrong, qui récupérait encore de ses problèmes cardiaques, rappela rapidement Dr. Meredith à son ancien poste de directeur du ministère américain, afin de tenter de rétablir la stabilité dans l'Église et dans le ministère au cours de cette époque de troubles. En même temps, M. Armstrong chercha à remettre l'Église sur les rails, après le libéralisme et la dilution doctrinale des années 1970. Alors qu'il était, lui, près de sa fin, en janvier 1986, The Plain Truth circulait à plus de 8 millions d'exemplaires en 7 langues différentes. La participation à la fête des tabernacles approchait les 150 000 de par le monde. Lorsque Joseph Tkach prit les règnes de l'Église universelle de Dieu à la mort de M. Armstrong en janvier 1986, l'Église paraissait solide. Il sembla qu'elle fût déterminée à faire l'œuvre de Dieu et à rester dans la vérité. Cependant, il y avait des problèmes sous-jacents. Ils devinrent de plus en plus évidents, d'abord insignifiants, puis de plus en plus voyants. La phase finale de l'histoire de l'Église. Apocalypse 3 nous décrit les deux dernières phases de l'histoire de l'Église de Dieu. L'Église de Philadelphie est caractérisée par son zèle à faire l'œuvre. Dieu a promis de mettre devant elle une porte ouverte pour prêcher l'Évangile, verset 8, ainsi que de la protégé de la grande tribulation à venir, verset 10. Cependant, une 7e et dernière étape de l'histoire de l'Église de Dieu y est encore mentionnée, l'Église de Laodicée. Cette Église est caractérisée par sa tiédeur et sa léthargie spirituelle, verset 15 à 17. Quoique M. Armstrong eût remis l'Église sur les rails au cours de 7 dernières années de sa vie, il était de plus en plus visible que depuis les années 1970, deux esprits différents coexistaient au sein de la même organisation. Un an après la mort de M. Armstrong, l'ancienne tendance libérale et permissive des années 1970 commença à refaire surface. En quelques années, des changements furent opérés bien au-delà de ce qui s'était passé précédemment et cela se traduisit par une apostasie totale de la vérité. Au point même où la doctrine de la Trinité fut acceptée, l'obéissance à la loi divine, incluant le sabbat, les jours saints, la dîme et les viandes impures, déclarée inutile. En décembre 1992, 40 ans après avoir été ordonné, Dr. Meredith fut obligé de quitter l'Église universelle de Dieu à cause de son refus de faire des compromis. Rejoint par des frères et des ministres fidèles, il ranima rapidement l'œuvre de Dieu sous la bannière de Global Church of God, Église mondiale de Dieu. En 6 semaines, l'Église mit sur pied un programme radiophonique hebdomadaire. En mai 1995, l'Église commença son émission télévisée hebdomadaire. En janvier 1995, la direction de l'Église universelle de Dieu abandonna la ligne doctrinale historique de l'Église de Dieu pour embrasser ouvertement la théologie protestante. Cela produisit une absorption virtuelle de l'organisation et la démission de milliers de frères ainsi qu'un certain pourcentage de ministres de par le monde. Malheureusement, ces départs dès 1995 donnèrent naissance à de nombreuses organisations concurrentes menées par une multitude de ministres indépendants qui continuent à créer des divisions. En novembre 1998, une tentative fut même organisée par plusieurs responsables du bureau de Global Church of God pour prendre le contrôle de cette organisation, les membres du bureau déposèrent Dr. Meredith contre la volonté d'une majorité des membres du Conseil des Anciens. Mais aussitôt, la vaste majorité des membres et des ministres de Global Church of God apporta son soutien aux dirigeants sortants et aux membres du Conseil des Anciens qui l'avaient suivi. Immédiatement, Dr. Meredith ranima l'œuvre avec une nouvelle organisation appelée Living Church of God, légalement appelée Église du Dieu vivant dans le monde francophone. Supportée par quelques milliers de frères et de ministres fidèles, en moins de 2 mois, il faisait à nouveau son apparition à la télévision, sur les mêmes stations et aux mêmes horaires que les membres du bureau avaient décommandés. 40 semaines après la mise en place de Living Church of God, l'organisation Global Church of God faisait faillite. Depuis lors, de ce qui reste de ce groupe continue à se disperser et à se diviser. Les 10 hommes qui, après avoir déposé M. Meredith, avaient tenté de reconstituer le Conseil des Anciens de Global Church of God, sont aujourd'hui dispersés au sein de différentes organisations de l'Église de Dieu. Mais tous les membres du Conseil des Anciens qui avaient quitté Global Church of God et qui avaient rejoint Dr. Meredith sont restés soudés à ce jour au sein de Living Church of God. L'Église du Dieu vivant persévère dans la mission de faire l'œuvre, c'est-à-dire d'annoncer au monde le véritable message de l'Évangile de Jésus-Christ. La brochure que vous êtes en train de lire existe parce que l'esprit d'équipe et d'unité a permis à l'Église de Dieu de maintenir le zèle philadelphien en tant qu'idéal et à ne pas accepter l'esprit individualiste et de repos sur ses lauriers qui affecte tant de membres laodicéens de l'Église. L'Église du Dieu vivant est mandatée pour vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, y compris d'obéir à la grande mission, d'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Marc 16, verset 15. De la même manière que cela s'est déjà produit dans le passé, le peuple de Dieu se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Satan a semé la confusion et le découragement. En conséquence, beaucoup de frères sont ébranlés et amers. D'autres ont permis aux soucis de la vie de les dominer. D'autres encore ont été fourvoyés par de faux enseignants et se sont laissés entraîner dans l'apostasie. Une autre catégorie est devenue si léthargique et tiède qu'elle a perdu la vision et se limite à maintenir en vie les congrégations locales sans chercher à faire l'œuvre. Toutes ces constatations sont l'accomplissement d'un avertissement du Christ donné à son Église dans Matthieu 24, versets 13 et 14. Quoi qu'il advienne, l'Évangile sera prêché au monde entier en ces temps de la fin. Matthieu 24, verset 14. Il y a une assemblée grandissante de croyants zélés pour la vérité, zélés pour terminer l'œuvre de Dieu. Tout comme le peuple de Dieu a dû aller de l'avant au premier siècle, de même, son peuple aujourd'hui doit combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Jude 3. Dieu a déclaré, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Romains 9, verset 28. Qui furent utilisés par Dieu pour exécuter cela? Selon Daniel 11, verset 32, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Où se trouve l'Église que Jésus a bâtie? Elle n'est pas morte. Au contraire, elle a défié les portes du séjour des morts et elle a continué à les braver. Aujourd'hui, l'Église de Dieu continue à faire l'œuvre de Dieu en proclamant le véritable évangile à un monde qui s'est laissé piéger dans une spirale fatale. Voulez-vous faire partie de ceux que Dieu utilise pour terminer son œuvre des temps de la fin? Possédez-vous un véritable esprit philadelphien qui témoigne d'un amour sincère pour les gens du monde entier et qui souhaite partager le message divin de vérité et d'espoir? Pensez-vous qu'il soit important que la maison d'Israël soit avertie des temps d'angoisse qui vont s'abattre sur la maison de Jacob? L'œuvre de Dieu est-elle plus importante à vos yeux que votre confort personnel? Dans l'Église du Dieu vivant, nous croyons être la continuation de l'ère de Philadelphie, établie il y a de nombreuses années par le Christ à travers M. Herbert W. Armstrong. En ces temps qui sont le prélude immédiat de l'époque de la Grande Détresse, nous sommes motivés par un sens de l'urgence. Nous croyons vraiment à ce que Jésus a enseigné, à savoir qu'il faut faire les œuvres du Père tandis qu'il fait encore jour. Car la nuit vient où personne ne peut travailler. Voir Jean 9 au verset 4. Voulez-vous, vous aussi, prêter l'oreille aux paroles du Christ? Fin.